Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Alors comme ça, vous avez plein de questions pour moi. Eh ben, je vais y répondre. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes inspirantes. Aujourd'hui, pas de personnes inspirantes au sens invité, mais moi et vos questions. Nous allons parler ensemble d'entraînement, d'équilibre de vie, de futur et de mes projets. Je vous ai annoncé quelques projets dont certains dont je n'ai jamais parlé jusqu'à maintenant. Je vous réserve ça pour la fin. Mais d'abord, j'ai commencé pour vous présenter cet épisode, vous dire un peu le concept. C'est que je vous ai demandé de me poser des questions. Alors, j'ai demandé sur Instagram, mon compte @BertrandSoulier, ou sur le Hamsters Running Club. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Vous savez, c'est la communauté dans laquelle nous sommes là pour nous entraider justement à devenir champion du monde de notre monde. Et elle va évoluer au fur et à mesure des mois qui viennent, parce que j'ai quelques idées dans la tête. Je vous en dirai un petit peu plus au fur et à mesure des épisodes, des futurs épisodes. Aujourd'hui, donc, j'ai environ une vingtaine de questions que j'ai réparties dans différents niveaux. Alors, il y a des questions autour de l'entraînement, il y a des questions autour de ma vie sportive, de mon futur à moi, futur pro, etc. Donc il y a plein de questions qui vont dans plein de sens. Donc, j'ai essayé de les ranger un petit peu, de tout ranger, même si j'avoue que par moments c'est pas très simple de savoir dans quelle case ranger, mais en tout cas j'ai essayé de faire un petit peu de rangement. Puis il y a quelques questions qui m'ont fait rire, parce que je les ai rapidement regardées un petit peu. J'ai pas préparé de réponse complète, etc., parce qu'avec une vingtaine de questions, vous comprenez bien que ça serait très long, vraiment, de répondre à tout. Mais je ferai des foires aux questions régulières, peut-être qu'il y aura un épisode d'ailleurs, il y aura peut-être des sujets d'épisodes où je ferai des épisodes solo avec une question à la fin. On va voir un petit peu comment je vais organiser un petit peu la suite des choses. Bon, allez, première question. Une question qui m'était posée, mais on va commencer par la partie entraînement. Faut-il vraiment suivre un plan pour faire un semi ou un marathon, ou peut-on faire au feeling? Alors, c'est toujours les questions qui sont un petit peu compliquées de répondre. Et puis on m'a demandé aussi si j'avais un plan semi-marathon en stock. Faut-il vraiment suivre un plan pour faire un semi ou un marathon? J'ai envie de dire, il y en a qui le font au feeling, il y en a qui le font avec un plan, et dans tous les cas, on sait que pour certains ça a marché et que pour d'autres ça n'a pas marché. La raison d'un plan, faut dire quand même ce qui est, c'est qu'un plan, c'est pour nous amener le jour de la course que l'on vise au pic de forme que l'on vise. C'est-à-dire qu'en fait, le but d'un plan, c'est de nous conduire, de nous guider pour être en forme le jour J. Voilà, tout simplement. Ça veut dire que faut être capable de courir la course que l'on veut faire, de la courir dans des bonnes conditions. Et pour ça, il y a un entraînement. Alors, si on fait un 5 km ou un 10 km, pour moi, c'est du feeling. Quand on rentre dans la distance du semi ou du marathon, c'est pas vraiment du feeling, parce que courir à une vitesse qui est à 80% de sa vitesse maximum, mais pendant plusieurs heures, pour moi on est dans un temps, mon temps au marathon c'est 3:46. Pour d'autres, ça va être 4 heures, pour d'autres, ça va être 5 heures, pour d'autres, vont le viser en 6 heures. C'est un effort qui est long, et donc ce qui veut dire que il faut quand même être capable de l'encaisser, voilà, tout simplement, de savoir à quelle vitesse on court vraiment. Et puis, je vais le dire, et on va y répondre un petit peu plus tard aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait une question qui passait là-dessus, c'est que le plan, vraiment, est là aussi pour vous rassurer, pour vous dire que vous êtes capable de le faire. C'est-à-dire qu'au départ, quand on veut courir un marathon, on ne se sent pas capable de le faire, parce que ça nous semble vraiment trop important. Alors bien sûr, ceux qui vont le faire au feeling sont ceux qui ont couru beaucoup de marathons. Il y a des gens, faut regarder un petit peu, qui courent des marathons toutes les semaines, leur sortie longue, c'est un marathon, qui font des marathons depuis des années, tous les week-ends, ils trouvent un marathon, il y a des gens qui ont couru 500 marathons dans leur vie. Donc eux, le feeling, c'est que finalement, la préparation marathon, c'est qu'ils connaissent tout, ils savent leur vitesse, il n'y a pas de préparation spécifique ou quoi que ce soit. Mais quand on fait son premier marathon, quand on fait un ou deux marathons dans l'année, c'est vrai que le plan, pour moi, vraiment je le dis, m'apparaît vraiment comme étant indispensable. Alors est-ce qu'il n'y a pas un peu de feeling dedans? Bien sûr, toujours un petit peu de feeling, parce que il y a des ressentis, il y a l'expérience. L'expérience, c'est quoi? C'est de se dire, ben, j'ai prévu que ça se passe de telle manière, et puis finalement, ben, ça s'est passé de telle manière sur telle course. Ben, il va peut-être falloir que je revoie les choses, il va peut-être falloir que je les ajuste, et c'est là où le feeling, les sensations vont intervenir. Et les sensations, en fait, c'est quelque chose dont on est très coupé, et c'est quelque chose dont je vais beaucoup parler, parce que notamment maintenant que je cours pieds nus beaucoup plus souvent, hein. J'ai même fait des sessions barefoot totales cet été dans mes chemins avec les caillasses, etc. Et ben, on se rend compte qu'en fait, les chaussures, notre environnement, la musique, le casque, etc. nous coupent de nos sensations. Et le feeling, en fait, et ben, c'est est-ce qu'on est capable d'écouter nos sensations? Et ça, c'est un élément qui est vraiment très important. On pourrait parler de méditation, on pourrait parler de souffle, on peut parler de plein de choses. Mais je pense qu'en fait, pour être capable de s'entraîner au feeling, il faut vraiment très bien connaître ces sensations, qui nous sommes vraiment, notre vitesse, à quelle vitesse on est capable de courir, qu'est-ce qui nous fait du bien. Et c'est ce qui m'amène d'ailleurs à la question suivante qui m'a été posée. Bah ça, c'est une question sur la Master Running Club, sur quand on est débutant, à quelle intensité, alors battement de cœur, vitesse par kilomètre, minute par kilomètre, commencer? On n'a pas trop d'informations là-dessus. Alors, je vais dire un truc, c'est que je ne vais pas répondre à cette question en donnant un chiffre, parce que ce chiffre-là n'existe pas. Et donc, il faut arrêter de le chercher, tout simplement. Ma vision au départ, c'est qu'on se prend vraiment, vraiment, vraiment trop la tête quand on débute, et je sais ce que ça a été. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai débuté la course à pied. Vous avez écouté le podcast depuis le début, donc vous savez qu'au début, j'avais beaucoup de questions sur la vitesse, etc. Et je me suis posé vraiment, vraiment beaucoup de questions. La réalité des choses, en fait, c'est que plus je me suis mis à courir, et plus je me suis rendu compte que ces éléments-là étaient tellement personnels. La vitesse par kilomètre, le nombre de minutes par kilomètre. Bien entendu, quand on veut courir un marathon, pour prendre l'exemple précédent, si vous voulez courir un marathon en 3h30, vous savez que vous devez courir à 12 km/h, c'est-à-dire de 5 minutes par kilomètre, qu'il faut 5 minutes pour faire un kilomètre. Mais ça, vous le savez, parce que vous êtes capable d'avoir fait des séances qui vous permettent, que vous êtes capable de courir pendant 3h30 à cette vitesse-là. Voilà, tout simplement. J'ai vu hier passer que le record du monde du 24 heures, la personne avait couru pendant 24 heures à 13 km/h. Ce qui, moi, me semble hallucinant quand je vois que j'ai eu du mal à courir à 12 km/h pendant plus de 3h30. Je me dis, bon, bah, chacun a ses vitesses, chacun a ses capacités de le faire. Et donc, au départ, ces histoires de battements par minute, ces histoires de minutes par kilomètre sont très difficiles. Et il y a plusieurs raisons à ça. D'une part, c'est que on ne sait pas à quelle vitesse on doit courir, tout simplement, parce que on a chacun nos capacités respiratoires différentes. Alors, vous savez, il y a bien sûr le calcul des battements par minute de fréquence cardiaque maximum. On dit on devrait courir à 70% quand on est en endurance mentale. Donc, on va calculer finalement ce qu'on appellerait une fréquence cardiaque théorique maximum. C'est max théorique, on va dire. Vous savez, c'est les calculs de 120 moins l'âge, etc. Suivant que c'est en un homme ou en femme, il y a une petite variation. On va dire, bon, voilà, j'ai une fréquence cardiaque théorique à 180. Sauf que, en fait, 70% de 180, ça va dire, bon, bah, on va dire, je vais faire du 140. Mais on va peut-être se rendre compte que, finalement, quand on débute, bah, justement, c'est encore trop élevé. On n'y arrive pas à tenir, on n'est pas dans des fréquences dans lesquelles on est très à l'aise. L'entraînement va permettre de descendre, justement, cette fréquence cardiaque à laquelle on va courir, va aussi permettre d'accélérer la vitesse. Mais au départ, on n'a pas de ressenti, on ne sait pas où on en est, on ne sait pas à quelle vitesse on doit courir. Et je vais te dire, c'est que on ne peut pas le trouver, on ne peut pas dire, bah tiens, je vais prendre un bouquin, ça va marquer le truc. Moi, je suis pas pour ça. Je suis en fait tout simplement pour des allures de ressenti. Ma vision, vraiment, je leur dis, c'est qu'au début, on a une tendance à se prendre la tête, et moi je dis, on ne se prend pas la tête, on court doucement pour éviter l'essoufflement, c'est-à-dire qu'en fait, on devrait avoir 3, 4, 5 allures, hein, voilà, dans notre tous, hein, au fur et à mesure, on va les apprendre, et qui vont de l'allure très lente, hein, qui est vraiment, vraiment quand je parle de l'allure très lente, c'est, on est capable vraiment de discuter, et on pourrait être capable de dire, bah, tiens, je vais commencer à parler au téléphone avec quelqu'un, par exemple, ou parler avec ses enfants, s'ils sont avec nous, etc., et de discuter avec eux, ou parler avec des amis, de discuter avec eux tout en courant, même si c'est peut-être de l'alternance entre de la marche et la course, et puis, on a la vitesse maximum dans laquelle on est vraiment en train d'exploser, qu'on va tenir pendant quelques secondes, et entre toutes ces vitesses-là, en fait, on a 4 ou 5 étages, hein, tout simplement. C'est-à-dire que on a, même en endurance mentale, on pourrait considérer qu'on a 2 vitesses d'endurance mentale. Pour moi, je dis très clairement, c'est qu'on a la vitesse vraiment très lente où on peut discuter, mais vraiment très cool, et on pourrait courir pendant, comme ça, pendant 3, 4, 5 heures, et puis on a une vitesse qui est un tout petit peu au-dessus, c'est-à-dire que, bah, elle fatigue un petit peu plus, on reste dans les fréquences d'endurance mentale, mais elle va fatiguer un tout petit peu plus. Et puis ensuite, après, on aura les vitesses marathon. Et puis on aura les fameuses vitesses semi-marathon, 10 km, 5 km, sprint, etc. Mais ces vitesses-là, finalement, on va les apprendre au fur et à mesure. Et moi, vraiment, ce que je dis, c'est que on court au départ doucement quand on est débutant. Le but, c'est pas de courir à une vitesse particulière. Le but, c'est pas de courir avec une fréquence cardiaque particulière. C'est de trouver la vitesse qui nous permet de courir. Tout simplement, c'est-à-dire de trouver la vitesse qui nous permet de courir sans s'essouffler, en courant peut-être des 6 fois une minute, 9 fois une minute, etc. Mais d'être capable de courir d'abord la tranche de 1 minute, puis la tranche de 2, la tranche de 3, etc. Puis courir 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, puis courir 1 heure. Et quand on court 1 heure, là, on va avoir, et puis c'est là où c'est intéressant de se dire, bah tiens, je pourrais avoir un cardio-fréquence match, je pourrais avoir un petit truc comme ça, même qui coûte pas très cher. On va enregistrer un petit peu les vitesses à laquelle on court et on va se rendre compte que quelque part, on va avoir une vitesse régulière, on va avoir une fréquence cardiaque régulière, etc. Et là, on va pouvoir commencer à se dire, bon, bah, je me rends compte quand même que ma fréquence cardiaque maximum, c'est pas la théorique, mais que, bah, par exemple, un jour, je vais essayer de faire une accélération, par exemple, vous savez, le fameux test de pour se trouver sa, comment ça s'appelle, sa VMA. Vous avez un test de VMA, par exemple, qui est juste de courir le plus vite possible pendant 6 minutes. Votre cardio va monter très fortement et on pourrait dire que ce cardio-là, ou alors le cardio que vous faites, par exemple, sur certains sprints, sur des séries de 30-30, par exemple, c'est-à-dire 30 secondes d'accélération, 30 secondes de repos, mais faire ça 10 fois, il y a un moment donné, votre cardio, il va monter à un maximum et si vous faites ça plusieurs séances, vous allez vous rendre compte que vous êtes toujours à peu près dans ces maximums, hein, qui, par exemple, pour certains, va être 183, pour d'autres, 176, etc. Et donc là, vous aurez un chiffre où, déjà, vous êtes capable de dire, bah, tiens, ça se rapproche de quelque chose qui est beaucoup plus proche de la réalité, tout simplement parce que vous l'avez mesuré. Mais avant d'arriver à ça, moi je dis, il faut courir d'abord à la vitesse de son sourire. C'est-à-dire que c'est trouver le rythme qui nous permet de courir, de trouver vraiment d'être bien quand on court, d'être avoir son petit bonheur à soi, ce moment où on se dit, bah tiens, là je suis bien. Voilà, je suis tout simplement bien. Et c'est ça qu'on cherche au début quand on est débutant. Et ça, c'est compliqué parce que au départ, quand on est débutant, on souffle, on crache les poumons, on n'est pas bien, c'est compliqué à gérer, on n'y arrive pas. Et donc c'est pour ça qu'on a une tendance à courir souvent trop vite. Trop vite, et puis si on est calé sur des allures qui nous ont été imposées par d'autres, et ben en fait on essaie de tenir des cadences qui sont fatigantes pour nous, qui sont vraiment trop fatigantes pour nous. Et on peut revenir sur des épisodes que j'ai fait avec Denis Boucher, on peut revenir sur plein d'épisodes que j'ai fait, des fois et souvent, tout le temps on pourrait dire, on mériterait vraiment de ralentir pour être capable tout simplement de prendre d'abord l'habitude de courir et que on le fasse avec le sourire, pas qu'on se dise que ça doit être un chemin de croix. Non, au départ, notre but du jeu, c'est d'être capable de courir et de trouver du plaisir dans la course. Et ça, souvent, ça se fait en ralentissant beaucoup. Maintenant, j'ai deux questions qui sont un peu proches dans l'aspect mental. En fait, pour moi, je les ai rangées un petit peu dans l'aspect mental. Première question, alors qui est un petit peu longue, dont je vous la résume, c'est on parle beaucoup de préparation marathon en 12 semaines, mais est-ce valable peu importe le niveau de départ? Est-ce vraiment possible, raisonnable, si on ne court que ou déjà 10 km? Vous voyez, le que ou le déjà, on sent il y a une petite limite dans la tête, qu'on se pose la limite. Ne faut-il pas se laisser un délai d'apprentissage de la course à pied avant de se lancer dans ce beau défi? Alors là encore, c'est pareil, hein, c'est que on trouve de tout. Il y a des gens qui, leur première course de leur vie, ce sera un marathon, qui se lance dans une préparation marathon, alors qu'il va pas faire 12 semaines dans ce cas-là. Hein, c'est-à-dire que quand on n'a jamais couru de sa vie, et ben la préparation marathon va plutôt durer pendant peut-être 6 mois pour commencer à courir. Et puis ensuite, on va avoir des préparations marathon sur... J'ai vu des plans marathon. 12 semaines, c'est vrai que c'est généralement ce qu'on retrouve très 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 souvent. Sur des débutants, on a souvent des plans de 16 semaines. Alors débutant, pas des débutants totalement, parce qu'un débutant total, il peut pas commencer un plan marathon, parce que déjà on va lui dire de courir à telle vitesse, de trouver son allure, à quelle vitesse il veut courir le marathon. Alors bien sûr, on pourrait dire, bah, tiens, puisque t'as jamais fait un marathon, tu vas essayer de le courir en 5 heures, on va te mettre telle vitesse, mais si je reviens à ce que je viens de dire avant, ça n'a aucun sens pour moi. Donc vraiment, d'abord, quand on est capable de courir un 10 km, oui, on est capable de courir un marathon, je le dis très clairement, on est capable de le faire, hein. Moi, quand j'ai commencé la préparation marathon, j'avais fait des distances un petit peu plus longues. Par exemple, j'ai fait un trail de 36 km. Alors qu'il devait en faire que 27 au départ, je me suis rendu compte que j'étais capable de courir 36 km. Quand on a fait 36, finalement, les 42 sont pas très loin. Donc, on a plus de capacité qu'on le pense. Mais là, par contre, c'est vrai que la question pose la question mentale. Et c'est pour ça que j'ai rangé dans l'aspect mental. Parce que, est-ce que quand on court que 10 km. Mais quand on court que 10 km, on court beaucoup plus que déjà, on a déjà fait un progrès énorme. On est capable de courir 10 km. C'est déjà un élément qui est super important. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient courir, qui n'ont jamais réussi à courir 10 km. Et vous savez, c'est surtout la fameuse barre des 10 km en une heure que certains visent, etc. C'est un 10 km/h. Si on prend toutes ces limites-là qui vous semblent basses, parce que bien sûr, quand vous regardez Kipchoge qui court le marathon en 2 heures ou 2 heures et quelques, quand on regarde les records homologués, quand vous regardez ceux qui courent le 5 km à je sais pas quelle vitesse, bien entendu, vous avez dit, mais moi je cours, je suis lent. Et vous savez, le syndrome du coureur lent que j'ai, et j'en ai beaucoup parlé de ce syndrome du coureur lent. Mais en fait, bien entendu, mais on est toujours lent pour quelqu'un d'autre, j'ai envie de dire. N'importe quel coureur, et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une discussion avec un invité potentiel, et je lui disais, moi les coureurs, par exemple, François Daen et compagnie, c'est des extraterrestres, il m'a dit, bah moi aussi, ça me semblait être des extraterrestres, et puis en courant avec eux, je me suis rendu compte que finalement, ils sont pas tant extraterrestres que ça, pour moi. Mais oui, mais pour lui. Mais attention, pour lui. C'est-à-dire que on a tous nos extraterrestres et on est tous l'extraterrestre de quelqu'un d'autre. Donc, déjà, être capable de courir des kilomètres, c'est qu'on est capable d'enchaîner ensuite les séances pour préparer un marathon. Alors, est-ce que 12 semaines, c'est la durée qu'il faut? Moi, je suis pas en mesure de répondre comme ça parce que là encore, c'est une question de volume qu'on est capable de mettre. Est-ce qu'on va s'entraîner 2 fois par semaine? 3 fois par semaine, 4 fois par semaine. Il y en a certains qui vont vous dire que si vous faites pas 4 entraînements par semaine, vous pouvez pas courir un marathon, ce qui est pas vrai. Certains vont dire qu'il faut au minimum 3 séances. Là, par contre, je suis un peu plus dans la réalité. Moi, j'aime bien faire 4 séances par semaine. Mais en tout cas, en ce moment, je vous rappelle quelque chose, c'est que, ou si vous l'avez raté, si vous avez pas trop suivi mon compte Instagram ou mes vidéos sur YouTube, notamment sur la chaîne du Hamster Running Club, je cours tous les jours, depuis 37 jours. Donc, ces histoires de dire est-ce qu'il faut que je fasse 2 séances, 3 séances par semaine, pour moi, c'est plus vraiment un problème. Mais si je devais rentrer dans une préparation marathon, je serais plutôt sur une préparation de 10 semaines. Hein, vraiment 10 semaines. Pourquoi? Parce que moi, 16 semaines, c'est une préparation, la préparation marathon, qui est très exigeante. Vraiment très exigeante. Elle est exigeante physiquement. Et je le dis parce que mon premier marathon, je me suis blessé avec une périostite 2 semaines avant la course. Donc je sais à quel point c'est exigeant physiquement, c'est-à-dire que ça nous amène dans des niveaux d'efforts qu'on a probablement jamais fait quand on a jamais couru ça. Hein. Quand on a fait 10 km, on ne sait pas ce que c'est que courir un marathon. Donc il va falloir augmenter les distances, être capable de courir un semi-marathon. Et je le redis, le plan va nous amener justement dans le confort d'être capable de le faire. Donc au départ, on va se dire, bah je vais courir 15 km. Et puis quand je me rends compte que je suis capable de courir 15 km, ben je me rends compte que je suis capable de courir 21 km, semi-marathon. Et puis quand j'ai fait un semi-marathon, je me dis, bah maintenant, je dois faire une séance qui va faire une sortie longue, qui va faire 2h30, qui peut faire 3h. Et puis on va se rendre compte qu'on a couru 30 km. Quand on est à 30 km, on va se dire, bon maintenant, je suis dans les zones. Hein, voyez. Alors certains vont dire, oui, il faudrait faire 35, 36 dans une préparation marathon. Probablement pas pour certains, parce que là aussi c'est pareil, quelqu'un qui court le marathon en il y a quelqu'un en club qui court le marathon en 2h54, quelque chose comme ça, ou 2h50. Lui me dit bah moi de toute façon je fais des sorties, ma plus longue sortie elle fait toujours 36 km. Et je regarde son temps d'entraînement, mais son 36 km à lui, le temps qu'il met pour faire ça, on va dire qu'il met moins de 3 heures pour le faire. Si moi je dois faire 36 km, je vais mettre beaucoup plus de temps pour le faire. Et si vous voulez faire 36 km, vous allez mettre encore plus de temps. Le problème en fait, c'est que la fatigue, c'est pas les kilomètres qui vont le générer, c'est le temps d'effort qui va générer la fatigue. C'est-à-dire que le fait de courir 2 heures à une certaine vitesse, pour quelqu'un, va lui générer une fatigue. Pour vous, ça va vous générer une fatigue. Pour moi, ça me génère une fatigue, etc. Donc, si je vous dis qu'il faut courir 36 km, mais que ça vous prend 3h30 pour faire 36 km, ça va générer une surfatigue. Et le problème de la préparation marathon, c'est qu'on génère beaucoup trop de fatigue. Donc, il y a cette fatigue physique et puis il y a une fatigue mentale. Et c'est là où, par exemple, quand on trouve des plans préparation marathon sur 16 semaines, imaginez-vous pendant 4 mois être focalisé sur un objectif qui est de courir une course. Pendant 4 mois, vous êtes focalisé sur une course. Pendant ces 4 mois-là, vous avez, la tête va tourner, vous allez avoir un planning, vous allez regarder les séances, vous allez faire ça, ça, ça et ça. Vous êtes conditionné pour courir vraiment cette course-là. Et en fait, ça va vous fatiguer mentalement. Vous allez courir la course je ne sais pas combien de fois dans la tête. Vous allez la courir des dizaines de fois en vous posant des questions dans tous les sens, etc. Et ça m'amènera à la question suivante, c'est que c'est vraiment se dire qu'on va finir par ne pas y arriver et qu'on n'aurait pas dû s'inscrire, parce que la question m'a été posée, c'est la question du syndrome de l'imposteur, se dire qu'on n'y arrivera pas et qu'on n'aurait pas dû s'inscrire. Et vraiment, c'est lié à ça pour moi. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai eu cette question-là dans les questions qui ont été posées, par exemple sur Instagram, a été posée il y a 2 jours, mais j'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps aussi sur Instagram, en message privé, de quelqu'un qui me disait, ben voilà, je prépare un marathon, mais j'ai le syndrome de l'imposteur. Et moi, le syndrome de l'imposteur, vous savez, c'est quelque chose que j'ai beaucoup dans la création de contenu, que j'avais un peu dans la création de ce podcast-là, même beaucoup, hein, je dis beaucoup que Kilomètre 42, c'est le podcast d'un imposteur, c'est ce que je dis dans mes formations pour apprendre aux gens à faire un podcast, hein, parce que j'ai des formations pour apprendre aux gens à faire un podcast, mais ça, je pourrais en parler dans les questions qui sont liées à ma vie pro, à la vie, comment je gagne de l'argent, finalement. Et ce syndrome de l'imposteur, c'est de se dire que, finalement, on n'est pas à la bonne place. On n'est pas à la bonne place. Et ça, c'est vraiment un truc, c'est normal. Hein, soyons honnêtes, c'est normal. On a l'impression qu'on n'est pas à la bonne place, tout simplement parce que le syndrome de l'imposteur vient de la comparaison et du fait qu'on débute. Pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est le syndrome du débutant ou le syndrome de la comparaison. Quand on débute la course à pied, on ne sait pas si on est capable de courir un marathon. Et donc, le fait même de s'inscrire à un marathon se dit, bah, je suis un imposteur, parce que pourquoi moi je prétends être capable de courir un marathon alors que je ne l'ai jamais fait? Bon, la grande nouvelle de ce monde-là, c'est que personne n'a jamais couru un marathon à sa naissance, personne n'a jamais couru 5 km à sa naissance, personne n'a jamais couru 10 km à sa naissance, et on l'a tous fait une première fois. Mais c'est valable pour marcher une première fois, pour faire pipi une première fois dans les toilettes, pour faire l'amour une première fois, etc. On a tous été un imposteur, un débutant, un partir dans l'inconnu pour n'importe quoi. Et pourtant, regardez le nombre de choses que vous avez faites. Avant de commencer à marcher, d'être capable de faire vos premiers pas, vous avez fait des centaines d'essais. Vraiment faire des centaines d'essais. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, bah vous êtes levé, vous êtes tombé, vous êtes levé, vous êtes tombé, vous êtes levé, vous êtes tombé. Et puis à un moment donné, il y a un pas qui a été fait. Je me rappelle du premier pas de ma fille. Elle s'écarte de ce canapé. Elle se retrouve à un moment donné avec les mains qui ne tiennent plus rien. Elle se dit, je fais un autre pas. Oh, je tiens. Elle nous regarde, grand sourire, elle tombe. Mais quelques minutes après, elle se relève. Et en fait, ce qu'on craint, nous, dans notre vie, c'est quoi? C'est ne pas y arriver. C'est pour ça le syndrome de l'imposteur, syndrome de débutant, se dire qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'aura pas dû s'inscrire, et si je me faisais rembourser mon dossard, et si je donnais à quelqu'un, etc. Toutes ces questions-là, en fait, c'est qu'on est dans la peur de l'échec. On a peur de se planter. Et vraiment, alors bien sûr, on pourrait reprendre les trucs de Mandela, oui, c'est pas un échec, c'est quelque chose, j'apprends de quelque chose, etc. Non, après, soyons honnêtes, quand on se plante et ça fait mal. Ma douleur de ne pas avoir couru mon premier marathon à Lyon, qui était prévu, hein, le jour de mon anniversaire à quelque chose près, vous savez, le jour de 42,195 ans, etc., ça reste une douleur qui est marquée en moi. Elle est marquée en moi physiquement, parce que j'ai fait de la micro-kiné, pas sur ce truc-là, mais j'ai fait de la micro-kiné dans ma vie, et je sais à quel point toutes ces traces-là, ces douleurs-là laissent de la douleur, laissent des marques physiques, musculaires. Donc là-dessus, si vous n'avez jamais fait de micro-kiné, allez voir un micro-kiné, vous allez voir, quand elle vous pose la main sur le bras et qu'elle vous dit, bah tiens, vous n'avez pas eu un traumatisme là, ou à tel âge, etc., et que vous réfléchissiez, ça vous posez une question vraiment intéressante. Donc je suis certain que cette non-participation à ce marathon m'a laissé une trace physique. Pour moi, elle est située dans mes tibias, c'est-à-dire que à chaque fois, je tape sur mes tibias pour voir si ça fait bien un bruit d'os, hein, tout simplement. Si quand je tape, ça fait bien comme si je tapais à une porte et pas comme si ça tapait dans un coussin, parce que là, c'est le symbole, c'est le signe qu'il y a de l'infection, hein, que les tissus sont gonflés, et donc ça va pas bien. Donc ça, c'est marqué aussi dans ma tête. Vous voyez, c'est vraiment marqué dans ma tête. Et en fait, on l'a jamais fait, ces courses-là, etc. Donc on peut échouer, et échouer, ça fait mal. Donc on a peur d'échouer. Notre cerveau nous met en protection pour ça. Mais en fait, du moment qu'on court, on est un coureur. Voilà, et on est un athlète. Et vous savez, pendant longtemps, j'ai dit dans ce podcast que nous n'étions pas des athlètes. Je me sentais pas être un athlète. Et en fait, il y a beaucoup d'entraîneurs. Rappelez-vous l'épisode aussi qu'on a fait avec Thomas et son entraîneur. Il dit, moi, j'appelle tous les coureurs, j'appelle ça des athlètes. Mon coach que j'avais pris, c'était pareil, hein, Stéphane Brognard. Je le dis, j'ai été pris des coachings à Stéphane Brognard. Il disait, tout le monde est un athlète. Et moi, en fait, je rajoute même une phrase, c'est qu'on est même un athlète incroyable, en fait. On est un athlète incroyable par rapport à la plupart des gens. En fait, Il y a plein de gens. On a l'impression que tout le monde court, mais dans notre monde, tout le monde ne court pas. Dans notre, si vous regardez autour de vous, tout le monde ne court pas. Si vous regardez, moi le matin, quand j'allais courir, là je reviens de vacances, quand j'allais courir le matin tôt, je croisais bien sûr des gens qui couraient. Bien sûr, je croisais des gens qui couraient. Mais je me suis fait une réflexion, c'est que tous les matins, je courais pratiquement tout seul sur la plage. Je croisais 3-4 personnes au bord de l'eau. Sur certains terrains, je croisais 3-4 personnes et je croise toujours les mêmes personnes. Vous pouvez avoir l'impression quand vous courez que il y a plein de gens qui courent autour de vous, parce que le fait de courir, c'est que vous regardez tous les gens qui courent. Mais en fait, quand vous regardez les gens qui courent, vous pouvez vous dire qu'il n'y a qu'un pour cent des gens qui courent. Moi, c'est ce que je dis, moi, c'est la règle des 1%. Vous savez, elle marche partout. C'est une règle que j'applique beaucoup dans la création de contenu pour dire, et qui est valable, par exemple, on disait sur les communautés en ligne, etc. On dit qu'il y a 90% des gens qui sont là juste pour regarder, 9% qui regardent et qui participent un peu, puis 1% qui vraiment, vraiment le fait, créer du contenu, par exemple, ou créer du podcast, ou participe dans une communauté sur Facebook, dans les groupes, etc. Vous avez toujours ce 1%. Et en fait, nous sommes le 1%. Voilà. En tant que coureur, nous sommes le 1%. Nous sommes l'élite. Voilà, nous sommes l'élite. Nous allons beaucoup plus loin que celui qui reste dans son canapé. Nous allons beaucoup plus loin. Quand nous courons 2-3 fois par semaine, nous allons beaucoup plus loin que celui qui essaye de courir une fois tous les 6 mois. Et donc, en fait, c'est ça qu'il faut devenir. Il faut devenir celui coureur qui court tout le temps. Alors, je dis pas courir tous les jours, mais qui court toute l'année. Ça veut dire courir plus de 5 fois par semaine toute l'année, etc. Ça veut dire que elle se dire, ben oui, dans la semaine, je vais courir 2 fois, 3 fois, mais je suis ce coureur régulier qui court tout le temps. Et à partir de là, en fait, vous êtes l'élite. Alors, bien entendu, vous allez me dire, ceux qui sont vraiment dans l'élite, hein, il y a un grand débat entre les coureurs qui courent longtemps, les coureurs qui courent vite, etc. Il y a eu des débats, j'ai revu passer cette vidéo, est-ce qu'un coureur qui court le marathon en 6 heures était vraiment un coureur qui court le marathon? Et puis, j'ai envie de dire, j'ai failli dire un gros mot, mais oui, quoi. Franchement, oui. On a la vitesse de son corps, la vitesse de son cœur, la vitesse de son cerveau. Et forcément, il y a un moment donné, on n'est pas tous égaux au départ. Forcément, pour certains, courir le marathon en 6 heures va être un exploit. Pour certains, courir un marathon en 6 heures, ça serait un échec. Et alors, ça reste que quand vous arrivez au bout, vous êtes un marathonien. De même que là, je regardais l'autre jour ce qu'ont fait l'Ironman. Eh ben, ils ont fait l'Ironman. Que vous le fassiez l'Ironman en 10 heures, en 11 heures ou en 18 heures, vous êtes Ironman. Vous êtes un Ironman. Et je regardais le marathon du Mont Blanc et j'ai suivi, et ça fait un lien avec les deux épisodes précédents, le live de Steven Ujarić. Et rien que le dire, j'ai des poils sur les bras. Steven Ujarić a accompagné Perrine Fage sur le tour du Mont Blanc, sur l'UTMB. Et comme il la pousse, quoi. Elle le fait en 42 heures. Vous allez me dire, oui, mais François Daen, il fait le truc en 17 heures, 18 heures, je sais pas quel est le temps, etc. Et il y a des gens qui vont le faire en 2 jours, et il y a des gens qui le font en moins d'une journée. Et alors? Moi, je suis incapable de faire l'UTMB tout de suite. Combien nous sommes capables de faire l'UTMB là tout de suite? Moi, j'ai même pas les points de qualification pour faire l'UTMB. J'ai jamais fait les courses pour avoir les points de qualification de l'UTMB. Je devais avoir 2 points en stock, vous voyez. Donc, j'ai même pas la moitié du parcours qui a été fait. Et le simple fait d'être capable de courir 170 bornes avec le dénivelé qu'il y a, c'est juste waouh! C'est juste incroyable! Regardez combien vous avez de marathoniens autour de vous. Est-ce que vous connaissez beaucoup de marathoniens? Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui courent comme vous courez? Et donc, vous êtes un athlète. Vous êtes chacun d'entre nous. Nous sommes des athlètes et nous sommes même des athlètes incroyables. Et puis, je vais vous dire un truc sur le syndrome de l'imposteur, c'est que la plupart des courses ont des temps qui permettent à tous de participer. Parce que même le marathon de Paris, il y avait eu des débats à une époque sur le fait qu'à la fin, ils sont obligés de ranger, ils rangent vite, etc. Et vous allez voir, parce qu'on va bientôt parler du marathon de Paris avec une invitée, et du marathon, mais à la fin du marathon de Paris, même quand ils commencent à tout ranger, même si vous n'arrivez pas sur la grande arche avec le beau tapis vert, etc., il y a quand même des gens, des bénévoles qui restent avec les médailles et qui vous distribuent les médailles quand vous arrivez après les autres. Voilà. Parce que la plupart des courses permettent, on s'étend. Alors bien sûr, vous avez des temps limites qui sont faits surtout pour la sécurité, hein, pour fermer les routes, on peut pas les fermer pendant 10 heures. Sur les trails, il faut que les bénévoles puissent se mettre au chaud, faut pas qu'ils restent des heures et des heures sur les chemins, etc. Donc à un moment donné, il y a les barrières horaires sur les trails, il y a bien sûr des choses comme ça. Mais en fait, quand vous regardez, il y a beaucoup de courses, quand vous commencez, qui sont très larges, et vous pouvez le faire très largement. Elles ont été faites pour que tout le monde puisse participer. Quand vous faites le marathon de Paris, quand vous êtes organisateur du marathon de Paris et que vous voulez inviter à la fête enfin inviter, faire payer à la fête 50 000 personnes, mais pour moi, je les invite à la fête. Si je suis organisateur d'une course, j'invite d'abord les gens à venir faire la fête de la course avec moi. Quand vous avez 50 000 personnes, vous savez que vous n'aurez pas 50 000 Kipchoge. Quelqu'un qui courait d'ailleurs dans le sas de départ, on avait parlé notamment aussi, vous vous rappelez, dans des épisodes où on parlait de marathon, on parlait un peu de vitesse. Ceux qui partent dans les sas de départ, les élites, en fait, ils sont tranquilles. Ils sont 200 à partir à toute vitesse. Et encore, ils sont 200 à partir à toute vitesse. Il y en a 20 qui partent en disant « moi, je peux gagner la course ». Il y en a 200 qui courent en disant « moi, je vais courir dans les 2h15, 20 ou je sais pas combien ». Et puis derrière, en fait, il y a des sas. Mon sas de 3h30 en était 10 000 personnes. Et les sas de 4h, il y a peut-être 7 000, 8 000, 10 000 personnes aussi. Et le sas de 5h, de 6h, ou je sais pas combien il y avait les sas maximum, mais les sas où il y a le plus de monde sont très chargés en monde, tout simplement parce que c'est la réalité des choses. C'est d'abord une fête de la course à pied. Et oui, je le dis vraiment, vous êtes capable d'y arriver. Vous êtes capable d'y arriver. Et c'est quoi la préparation marathon? C'est d'abord de se fixer un objectif. Et cet objectif, une fois que sont les fixés, on met en place les éléments pour y arriver. On découpe les choses. Vous pouvez reprendre les épisodes que j'ai fait, notamment sur un épisode avec du podcast Sport Nutrition avec Lilian Doza. On avait parlé ici de stoïcisme, et sur Sport Nutrition, on avait parlé un petit peu de son manière ingénieure de préparer les courses. Et notamment, il a préparé une traversée, ils ont traversé l'Atlantique à la rame en duo. Et comment, en fait, il prend un défi qu'il a pu faire et il se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Quels sont les éléments que je dois faire? Et en fait, c'est ça un plan marathon, ou un plan d'une course ou n'importe quelle course, c'est de se dire bon bah pour courir telle vitesse, telle distance, il faut d'abord que je détermine telle chose, puisque je détermine telle chose, que je m'entraîne à faire ça, ça et ça et ça et ça. Et donc le plan, en fait, qu'est-ce qui va vous amener à faire? À vous donner la confiance, à vous montrer que vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable de courir un semi-marathon, bon bah vous êtes capable de courir ensuite la distance supérieure. Et quand vous avez couru la distance supérieure, vous êtes capable de courir encore la distance supérieure. Et puis quand vous savez que vous avez fait un jour, vous avez couru pendant 3 heures, bon bah vous dites bon maintenant est-ce que je peux pas rajouter une heure? Ben bien sûr, j'ai jamais fait. Bien sûr que ce sera pas facile. Mais oui, je suis capable de le faire. Et puis ensuite, ben, vous allez voir que ce fameux 42-195, rappelez l'épisode avec Phil qui disait que quand il arrive à 42-195, il recommande aux gens de faire 100 mètres de plus pour dire là, t'as couru un ultra. Ben oui, vous allez vous rendre compte que quand vous avez fait 42-195, courir 100 mètres, 200 mètres, 1 km de plus, finalement, c'est peut-être pas si compliqué que ça et que vous allez pouvoir commencer à rêver à des choses au-dessus. Voilà. C'est un peu ma vision des choses. En tout cas, c'est beaucoup ma vision des choses et c'est beaucoup la vision que je partageais dans la Master's Running Club et partageais aussi dans les projets dont je vous parlerai au fur et à mesure des épisodes et de cet épisode-là. Et puis, j'ai une dernière question sur l'entraînement qui m'a fait rire. Donne-nous un peu tes astuces pour laver tes affaires de sport, notamment le turnover. On n'en parle pas assez. Oui, on n'en parle pas assez. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai eu des remarques aussi pendant cet été. Quelqu'un, notamment une ancienne collègue qui me disait « mais moi, ce qui me gaverait d'en courir tous les jours, c'est la lessive. » Et oui, c'est une maman, elle a 2 enfants, elle a un mari qui fait du triathlon, etc. Et elle dit, faut laver ça, c'est pénible. Et puis, on a chacun nos astuces, hein. Alors, vraiment, on a chacun nos petites astuces. Moi, j'avais, au début, quand j'ai vu cette question, j'avais failli répondre, mais il suffit d'avoir un gros stock de t-shirts. Mon vrai problème, vraiment, c'est la transpiration. Et puis, ma fille, quand je rentre de l'entraînement, elle me dit souvent, papa, tu sens pas bon, tu pues. Et je dis, oui, ma fille, je sens l'odeur du sport, de l'entraînement, et cette odeur-là, elle montre que je me suis fait du bien. J'essaye de lui inculquer dans cette valeur, de dire que cette odeur qui pique le nez, qui est pas très agréable peut-être pour les autres, en fait, c'est une bonne odeur. C'est une vraiment bonne odeur. C'est une odeur du sport, vous voyez ça. Oui, je sens pas les fleurs. Oui, je sens la transpiration. Oui, je pue. Et alors, c'est une bonne odeur. C'est une très bonne odeur. C'est l'odeur qui montre qu'en fait, on a fait du bien à notre corps, on a fait du bien à notre tête, on a fait du bien. On s'est fait du bien, quoi. Voilà, je le dis, transpirer, c'est aussi se faire du bien. Et donc, mon problème à moi, c'est plutôt les t-shirts. Alors, bon, le stock de t-shirts, j'en ai un stock immense. Vous me voyez souvent sur Instagram courir mes t-shirts du Amsterdam Running Club, hein, j'en ai 3 avec les logos, etc. Mais si je regardais les t-shirts de course, j'en ai une bonne dizaine. Donc sincèrement, même en courant tous les jours, je suis capable, au niveau des t-shirts, de courir pendant 2 semaines sans faire de lessive. Alors là, je vous garantis pas l'odeur, ça serait pas possible. Les chaussettes, j'ai résolu le problème en courant en sandales et courant pieds nus. J'ai moins de besoin de chaussettes. Non, mais je le dis, mais je cours 1 à 2 fois par semaine en sandales. Et puis le reste en différentes chaussures. Donc oui, les chaussettes. Alors, On a chacun nos astuces. Certains, je sais, recyclent les chaussettes entre deux séances. En se disant, ouais, bon, là, elles sont pas très sales, je les garde une fois, etc. Moi, le problème, vous voyez, ça serait plutôt le short. Hein, me dire, il faudrait un stock de shorts. J'ai commencé à regarder un petit peu plus de shorts cet été. Et puis, je vais vous dire un truc aussi, c'est que le fait d'avoir une petite fille à la maison, le fait d'avoir... Bon, on est trois à la maison. Mais surtout d'avoir Camille. Et puis, moi, je me tâche aussi de temps en temps en mangeant, ce qui désespère ma femme. Bon, on rentre dans les confidences, hein. C'est qu'on a souvent beaucoup de lessive et en fait ce que je fais c'est que je fais un petit tas dans lequel j'ai mes affaires qui puent et puis quand je vois qu'il y a 2-3 trucs qui s'amoncellent de ma fille, qu'on a quelques culottes à passer, qu'on a quelques t-shirts, qu'on a quelques tarasses, etc. Et ben je me dis bah tiens je vais passer ça avec elle. Et hop, je fais une lessive où c'est moitié sport, moitié affaires de ma fille, de ma femme, de mes affaires à moi, etc. Parce que notre machine à laver elle tourne. Elle tourne pas tous les jours, mais elle tourne assez régulièrement. Donc, ce problème de rotation, je ne l'ai pas. Au marathon de Paris, il y avait, je crois que c'était Lénore qui distribuait des petites bouteilles avec un lessive avec des petites boules. Et hier, j'ai ressorti, ça faisait longtemps que j'ai pas sorti cette veste, j'ai ressorti une veste pour après l'entraînement. Et je l'avais lavée avec ces fameuses petites boules. Et ces petites boules, elles sentent, je sais pas, les fleurs ou je sais pas quoi. Et ben, c'est notamment censé faire disparaître toutes les odeurs. Je sais pas si ce produit-là se trouve en magasin. Je trouve qu'il pue. Sur les rotations, vous voyez, c'est un peu ça, en fait. C'était de dire, bon, on peut avoir ces espèces de petits produits, vous voyez. Il y a des lessives spécialement anti-odeur, anti-transpiration, etc. Donc, certains vont dire, bah tiens, je vais attendre d'avoir un peu de... Faire une lessive avec ces lessives-là spécifiques, etc. Moi, je le fais pas. Moi, c'est de dire, voilà, je fais un tas et au bout de 2-3 jours, hop, c'est lavé. Après, l'hiver, qu'est-ce qui va être plus problématique? C'est que je vais être obligé d'acheter un truc de manche longue supplémentaire, peut-être. J'ai essayé la tactique de Philippe Béliard, Philippe Faux, de courir sans transpirer. Moi, je n'y arrive pas. Donc, le turnover, voilà, c'est un peu compliqué. J'ai acheté un stock de caleçons. Pour être honnête, chez Uniqlo, j'avais acheté un gros stock de caleçons pour renouveler mes caleçons. Et j'avais une rotation à un moment donné en ayant des stocks de caleçons usés. Et oui, parce qu'on n'en parle pas assez sur la préparation marathon. Les coupures des caleçons neufs, ça c'est un problème. Et en fait, ce qu'il y a dans les rotations à la maison, c'est que j'ai des stocks de caleçons neufs et des stocks de caleçons plus vieux, plus usagés, enfin plus usagés, je sais pas comment on pourrait dire, qui ne craignent rien au sens les coutures sont élimées et puis qui ont déjà eu des fois, parce que je vais en parler après aussi, mais ceux qui suivent les lives du Hamster Zoning Club savent que parfois je dis que le problème, tout ce qui est problème de pipi, caca, etc., c'est des vrais problèmes qu'on entend courir. Il y a beaucoup de coureurs qui n'en parlent pas, qui n'osent pas en parler. Mais combien d'entre nous ont été obligés des fois d'arrêter, de faire une pause dans les bois, etc. Donc voilà, ça fait partie des choses. Et donc j'ai des caleçons qui ne craignent pas ça non plus, vous voyez, qui ne craignent pas les petits accidents potentiels qui peuvent arriver. Parce que, soyons honnêtes, ça arrive à plein de gens. Et c'est ce qui me permet d'arriver, de faire la transition à la suite. À la suite de l'épisode où j'ai quelques questions sur la nutrition qui m'ont été posées et d'ailleurs bah tiens problèmes intestinaux et solutions comment on peut avoir des questions. Alors ça c'est problèmes intestinaux et solutions. Soyons honnêtes, ce sera le sujet d'un épisode complet. Alors, soit dans Kilomètre 42, soit dans le podcast Sport et Nutrition. J'avais un invité sur le sujet, on devait parler notamment de l'ischémie. L'ischémie, on en a parlé un petit peu dans un épisode avec Vanessa Morales sur Sport et Nutrition, parce que c'est un des problèmes en fait que vous avez, c'est que quand on court, notre corps en fait met toute son énergie pour courir et met moins d'énergie pour digérer dans les fonctions de digestion, etc. Et en fait, quand d'un coup vous remettez en route le système de pour manger, hein, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Il va retravailler, il va y avoir beaucoup de sang et tout qui va repartir, et donc ça va remettre en route le système digestif. Et c'est là où ça peut provoquer certains trucs, alors les diarrhées, vous savez, le mal de ventre, etc. Moi, je me rappelle après une course, j'étais malade pendant 2 jours, j'étais malade du ventre, etc. Et c'était un truc qui était assez couillon, c'est que assez couillon. On était parti à un groupe 4 ou 5, on part à 3, on habitait les uns côté des autres. Et puis il y en a à la fin de la course. Alors moi, c'était vraiment dur, hein. C'était la nuit du diable, 19 km de nuit, etc. Ça a vraiment été une course dure pour moi, j'étais vraiment pas bien à la fin. Et à la fin, il dit, allez, si on se mangeait un McDo. Et je dis, oui, alors, dans ma vie, je pense que ça doit être, c'est pas le dernier McDo, parce que ma fille n'était pas encore née, mais c'était, ça fait 4 ans que je n'ai pas mangé au McDo, pour donner l'anecdote, parce qu'on est passé devant le McDo. Ma femme était enceinte, donc ma femme a 3 ans et demi, vous voyez, il y a 4 ans, quand on revenait de vacances, un jour, on s'est arrêté au McDo. Et c'est le dernier McDo qu'on a fait, c'était il y a 4 ans. Et depuis, j'ai jamais mangé au McDo. Et donc, ça fait 4 ans, donc ça fait plus de 4 ans que j'ai mangé au McDo ce soir-là, et franchement, j'ai mis 2 jours pour digérer. Et pourquoi? C'est normal. C'est que juste après un tel effort, quand le corps, on lui donne un coup des frites, etc., il remet du sang, il remet tout ce qu'il peut, il n'arrive pas à le gérer. Et hop, ça fait une espèce, moi j'appelle ça aussi, c'est comme si vous buvez une gourde d'eau froide en arrivant après votre entraînement. En général, ça nettoie tout, hein, ça purge tout. Vous savez, vous avez le sentiment, il faut que tout redescende. Donc, les problèmes intestinaux, c'est une vraie réalité. Et souvent, en fait, je me suis rendu compte avec l'expérience, et c'est des choses dont on se parle dans sport et nutrition aussi, c'est que c'est souvent qu'on mange trop, en fait. On a une tendance à trop manger parce qu'on a peur de manquer d'énergie, on a peur de manquer de force, on a peur de manquer de plein de choses. Donc, on a une tendance à trop manger. Et en fait, souvent, notre problème, en fait, c'est que on devrait moins manger et plus boire. En fait, c'est l'équilibre entre la boisson et le repas qui est important. Et les problèmes intestinaux, pour moi, souvent, je les ai tous souvent remarqués, c'est quand je n'arrive pas à savoir ce que je mange et que j'ai peur et que donc que je mange trop. Il y a des choses qui ne passent pas aussi. Je sais qu'il y a des choses qui ne passent pas dans mes repas. Par exemple, le flan ne passe pas du tout. Alors, un flan à l'entraînement, alors le mercredi, l'entraînement du mercredi soir à 18h30, si je fais le goûter avec ma fille et que je vais acheter un flan à la pâtisserie, je peux vous garantir qu'il va mal passer, ça va pas passer, parce que c'est trop lourd à digérer. Et en fait, c'est là où on arrive sur des stratégies, sur manger un petit truc de miel juste avant l'entraînement peut être rassurant et donner du sucre, etc. Mais manger un gâteau avant, ou même manger un sandwich ou quoi que ce soit, on n'en a pas besoin parce que notre corps est capable, il a les réserves pour faire une sortie. Moi qui cours à jeun quasiment tous les matins, là par exemple pendant toutes les vacances, j'ai couru tous les matins à jeun. Et j'ai fait des séances, alors cette année non, parce qu'avec les blessures, c'était pas pour le cas. L'an dernier, j'ai fait une séance qui faisait 22 km, presque à jeun, avec juste une barre d'amande et de l'eau, et en endurance sans mental. Et quand j'arrive à la fin, j'étais pas fatigué plus que ça, parce que le corps, de quoi il a besoin, en fait, il a besoin d'une bonne alimentation tout au long de notre journée, tout au long de notre semaine, tout au long de notre mois, de notre vie. Et en fait, il fait des réserves pour qu'on soit capable de vivre. Et l'entraînement va l'aider à aller chercher dans certaines réserves à certains moments, etc. Mais quand on court juste comme ça pour aller faire une séance d'entraînement, on n'est pas dans le point où on va taper des réserves. En fait, je disais une étude, notre corps, il est capable d'absorber 4000 calories par jour à peu près. Certains sportifs dans des grands, grands, grands efforts vont consommer 6000, 6000, 7000, 8000. Je reviens à Lilian Doza qui disait qu'il avait donné ce chiffre-là, mais Steven Larrick l'a dit aussi, hein, dans les 8000 calories par jour à peu près. Un coureur du Tour de France peut monter jusqu'à 9000 calories par jour. Il n'est pas capable de manger 9000 calories par jour. Notre corps n'est pas capable de les digérer. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a un moment donné où notre corps, il va puiser tout simplement dans ce qu'il a sous la main. C'est le corps, hein, voilà. Mais ça, c'est des conditions extrêmes. C'est-à-dire que même un coureur du Tour de France n'est pas capable de faire une étape du Tour de France tous les jours, toute l'année, tout le temps en permanence. Il y a des moments où il est capable de le faire, il y a des moments où il n'est plus capable de le faire. Et donc, il y a des périodes de repos. Et donc, là, en phase d'entraînement, quand on est en phase d'entraînement, on a souvent la tendance de croire qu'il faut qu'on mange beaucoup pour s'entraîner, pour avoir de l'énergie. Mais en fait, on n'en a pas tant besoin que ça. Et notre corps est composé alors j'ai un invité dans sport et nutrition, un prochain invité qui vous dira qu'on est composé à 99% d'eau, ce qui peut vous sembler beaucoup parce qu'on dit toujours 80%, mais en fait c'est juste une question de mathématiques, c'est que même là où nous ne sommes pas composés d'eau, en apparence, hein, je veux dire, si vous regardez toutes les cellules du corps, etc., même les cellules elles-mêmes sont encore composées d'eau. Donc en fait, ce qui nous manque le plus quand on court, c'est l'eau, c'est la perte d'eau et la perte de sels minéraux. En fait, ces équilibres-là, c'est pour ça que souvent, vous rendrez compte que vous courez mieux en n'ayant pas trop mangé, mais en buvant assez, en ayant une petite boisson d'effort, même avec, si c'est de l'infusion ou de l'eau avec du citron et du miel, ça sera largement meilleur que d'amener plein de barres, etc., qui détraquent un petit peu le ventre. Et je parle même pas des gels que moi je ne supporte pas. Et donc ça m'amène à la question suivante sur courir pour manger ou manger pour courir. Ah, vaste question. Et je réponds ni l'un ni l'autre. Bah oui, en fait ni l'un ni l'autre. Courir pour manger, c'est un petit peu, vous savez, le grand mensonge de l'industrie alimentaire et de l'industrie du régime et de l'industrie des salles de sport aussi dans certains cas, on va dire. C'est de dire, faites du sport et puis vous serez bien, vous avez perdu du poids et puis vous allez pouvoir manger tout ce que vous voulez. Et en fait, moi je l'avais cru, hein, j'avais vu il y a très longtemps un truc, j'ai lu un témoignage de quelqu'un qui disait, moi je cours pour manger du chocolat et tout, et puis parce que je cours, je peux manger plus de chocolat. Mais oui, mais ça, et ça marche pour des gens qui ont un poids déjà d'équilibre, c'est sûr. Mais si votre but du jeu, c'est de perdre du poids, il faut d'abord manger... trouver le bon équilibre alimentaire par rapport à son métabolisme. Le métabolisme, c'est quoi? C'est notre consommation, tout simplement, de calories par jour. Et en fait, le sport ne représente qu'une toute petite partie. 80% de notre métabolisme, c'est de faire fonctionner le corps, j'ai envie de dire. Hein. Après, le reste, ça va être de quoi? Ça va être bah, marcher, de faire je sais pas quoi. Et puis, bien entendu, de faire du sport. Mais notre métabolisme, en fait, c'est quoi? C'est, en fait, qu'est-ce qui permet à notre corps de vivre? Et je lisais une étude qui était super intéressante. Vous savez que les enfants ont un métabolisme qui est beaucoup plus élevé que nous, notamment les bébés. Entre 9 et 13 mois, un bébé, en fait, il consomme deux fois, à poids égal, il consomme deux fois plus de calories que nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, il construit la cellule en permanence. Donc, c'est les cellules qui se construisent, qui doivent se développer en permanence. Et puis, le cerveau, pour grossir, pour se développer, a besoin d'énormément d'énergie. Et puis ensuite... cette consommation énergétique va baisser jusque dans les à 20 ans et à partir de 20 ans va se stabiliser jusqu'à 60 ans ou presque. C'est-à-dire que quelqu'un de 20 ans, 25 ans ou quelqu'un de 40 ans, 50 ans ou presque 60 ans consomme quasiment à peu près le même quantité d'énergie pour faire fonctionner son corps à poids égal, etc. Et à partir de 60 ans, on commence à perdre un tout petit peu, 0,7% par an à peu près. Et par contre, à 90 ans, eh ben, vous consommez 25 ou 26% de moins que quelqu'un qui a 40 ans en métabolisme. Ça veut dire que on pensait que c'était qu'il n'y a pas que la fonte musculaire. C'est tout simplement que les cellules se régénèrent moins vite, elles ont moins besoin d'énergie pour se reconstituer. Il y a plein de fonctionnements comme ça. Ce qui veut dire qu'en fait, quand on prend cette question de l'alimentation pour courir, pour manger, courir pour manger, manger pour courir, en fait... il y a un truc qu'on perd de vue, c'est que le premier but du corps, c'est d'abord de bien fonctionner. Donc le corps, il a besoin d'aliments pour être en vie, pour faire tourner le cœur, les poumons, le cerveau. Notre principal consommateur d'énergie, c'est avant tout notre cerveau. Alors bien sûr, il y en a à dire, oui, ben, il y en a qui utilisent plus que d'autres. Non, mais ça marche pas comme ça. C'est même si vous avez l'impression que quelqu'un n'utilise pas trop son cerveau, il continue quand même à consommer beaucoup d'énergie. Et c'est le corps, il va d'abord mettre en place tous les systèmes pour alimenter en oxygène, en alimentation, ces éléments-là. Parce que si votre cerveau n'est plus alimenté en oxygène, ben vous mourrez. Hein. Simplement, c'est malheureusement... enfin, vous mourrez. Oui, c'est... vous savez, toutes les attaques cérébrales, etc. C'est ça, en fait. Donc, quelque part, même quand on fait du sport, notre corps, il est d'abord dans le mode de survie. D'abord, j'alimente mon corps avec ce qui va permettre de fonctionner. Et puis, il va amener ensuite ce qui va permettre de tourner. Et donc... l'alimentation, d'abord, c'est avant tout pour ça. Ensuite, derrière, on a bien sûr de l'alimentation pour faire du sport, etc., dont on va avoir besoin. Et donc, dans cette question de courir pour manger ou manger pour courir, moi je dis, bien entendu, sauf si on fait des grandes courses, mais revenons sur l'UTMB, si vous courez l'UTMB, bien entendu qu'il va falloir manger pour courir, pour avoir l'alimentation qu'il faut, etc. Mais pour la plupart des séances, on n'a pas besoin de manger beaucoup pour courir. Par contre, le fait de courir pour manger amène quelque chose, une notion, c'est-à-dire, oui, puisque je cours, je peux manger ce que je veux. Alors, bien entendu, on vous a peut-être parlé de fenêtre métabolique. On en a parlé dans un épisode qui devait être l'épisode avec Caroline, je crois. On a parlé un petit peu de cette fameuse fenêtre métabolique, de dire que quand on court, derrière, on peut manger tout ce qu'on veut pendant un certain temps, etc. Que le corps, il accepte tout et qu'il en a besoin pour se reconstruire. Alors, je ne dis pas que tout ça n'est pas vrai, que tout ça ne marche pas ou quoi que ce soit. C'est pas la question. C'est de, en fait, de changer d'état d'esprit. C'est-à-dire que si votre but est de perdre du poids grâce au sport, c'est pas le sport qui va vous faire perdre du poids. C'est d'abord l'alimentation équilibrée qui vous fait perdre du poids. Et la course vous permet, pour moi, hein, vraiment, c'est comme ça que je vois, vous permet d'optimiser cette dépense calorique, mais cette dépense calorique, en fait, si vous devez éliminer des pizzas, une part de pizza, c'est une heure de course, hein, donc il va falloir courir beaucoup. Par contre, ce qui va vraiment, vraiment, vraiment vous aider, c'est ce qu'on appelle le NEAT, on en a parlé avec Caroline, j'en parle aussi dans ma formation SAM, qui est vraiment autour de ça, qui explique comment j'ai perdu du poids. c'est vraiment de se dire, eh ben, il y a un moment donné, en fait, l'activité telle que marcher, monter les escaliers, faire son ménage, téléphoner en marchant plutôt qu'en étant assis à son bureau, aller marcher régulièrement, etc., est beaucoup plus bénéfique en dépenses caloriques que même une heure de sport. Et donc, on en revient d'ailleurs à quelque chose, c'est qu'il y a des études qui ont été faites qui ont montré qu'on faisait faire du sport à des gens qui ne perdaient pas de poids, mais qui s'épuisaient parce qu'on leur faisait faire une heure de sport par jour, alors que, en fait, il suffirait de faire une demi-heure d'activité par jour. Et cette demi-heure d'activité par jour, qui peut être du sport, qui peut être de la course, qui peut être plein de choses, hein, qui peut être de marcher, va nous donner un surcroît d'énergie. Ce surcroît d'énergie va nous emmener à faire d'autres activités, comme par exemple monter les escaliers à pied, ne pas aller à la première arrêt de bus, mais aller au suivant à pied, aller chercher le pain à pied ou en vélo plutôt qu'en voiture. Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là va nous amener à ce surcroît d'activité qui va augmenter notre consommation énergétique, qui va permettre tout simplement de plus dépenser et donc finalement de rééquilibrer et de finalement d'avoir un meilleur équilibre, et c'est là où on peut arriver à la perte de poids. Et puis il faut le dire aussi, c'est que courir donne faim, hein, et souvent quand vous arrivez après une grosse séance vous avez faim, donc il y a cette alimentation là. Donc effectivement quand vous courez vous avez besoin de manger derrière, et puis des fois on a besoin, ça c'est un grand débat, est-ce qu'il faut hamburger ou pas après, c'est une question que je pose maintenant quasiment toujours dans sport et nutrition, parce que c'est un grand débat que même il y a eu au club, hein, et une fille du club m'a dit moi je ne c'est ma sortie longue, si j'ai pas un McDo à l'arrivée j'y vais pas, c'est ma récompense, etc. Mais on a chacun nos stratégies, on a chacun nos stratégies. Bon, elle a pas de problème de poids, vous voyez, mais enfin, même si on a un problème de poids, même si on perd du poids, j'ai envie de dire que ces stratégies-là peuvent fonctionner. En fait, c'est pas le problème, c'est pas de manger une fois un McDo. Parce qu'en fait, manger une fois un McDo ne changera rien à votre vie. C'est de manger tous les jours McDo qui vous pose problème. Moi, je l'ai testé, je peux vous dire que ça marche pas bien. C'est comme courir. Si vous courez une fois de temps en temps, ça n'apportera rien. Si vous courez régulièrement, c'est là où ça vous apporte des choses. Et bien pour l'alimentation, pour le sport, c'est exactement cette relation-là dans laquelle il faut qu'on cherche à aller, hein. C'est vraiment cet équilibre-là. Donc, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de mensonges. L'industrie alimentaire, bien sûr, va vous dire si vous faites du sport, vous pouvez manger tout ce que vous voulez, hein. Et puis en plus, vous avez des céréales qui sont super bonnes, etc. Vous voyez de quoi je parle. Vous regardez, elles ont 20% de sucre, donc elles sont pas plus bonnes que ça, que quoi que ce soit. Si vous voulez perdre du poids, vous ne pouvez pas vous dire que parce que vous courez, vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Non, ce n'est pas vrai. Même pour courir, perdre un peu de poids des fois peut faire du bien, hein, parce que il y a eu beaucoup de débats. Est-ce que des personnes en obésité peuvent courir ? Oui. Est-ce qu'il y a même des personnes en très forte obésité, hein, qui courent ? Et on a des images sur Instagram de gens qui courent, qui se blessent pas, etc., qui le font. Des études ont montré d'ailleurs que des gens qui sont en surpoids ne se blessent pas plus. J'ai envie de dire là encore, il y a tout un tas de discours en disant bah oui, mais parce que vous êtes en surpoids, il faut des chaussures avec un amorti spécialisé, il faut faire ça, ça et ça et ça. Et puis vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui sont en surpoids, qui courent pieds nus, parce que le meilleur amortisseur, ça peut être aussi le pied. Donc il y a tout un tas de discours autour de ça. J'ai envie de dire, là aussi c'est pareil. Je connais des coureurs légers qui ont des baskets avec un super amorti, je connais des coureurs lourds qui courent sans amorti. Chacun doit trouver un petit peu, doit se faire sa philosophie, et cette philosophie, là, se fait par l'expérience. Quand on parle de nutrition, vraiment, ce qui compte pour moi, c'est l'expérience. C'est d'expérimenter qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, pour revenir sur les problèmes intestinaux. On est exactement sur ce truc-là aussi, hein. C'est-à-dire que si vous rendez compte que moi, je vous dis, moi, je mange un flan, je suis pas bien, je prends un riz au lait avant une course, je suis bien si je le mange 2-3 heures avant. Si je mange trop avant, je suis pas bien. Si je prends ça avant, je suis pas bien, etc. Vanessa Morales, dans l'épisode de Sport et Nutrition, a monté le Kilimanjaro en mangeant une salade de fruits, deux œufs et puis un bout de pastèque au milieu de l'ascension du Kilimanjaro sur un effort de 10 heures d'effort, hein, l'aller-retour. C'est hallucinant. Ben non, parce que elle s'est entraînée aussi pour ça. Et la nutrition, c'est aussi l'entraînement, et c'est pour ça que avec Apiron, on a créé un podcast dédié à ça, de comment ça fonctionne et de comment vraiment tout ça peut fonctionner. Alors maintenant, on arrive sur des questions qui concernent mon futur. Alors là, j'en ai eu un bon paquet. Je sais pas trop dans quel sens les prendre, mais je vais partir sur les questions qui sont plutôt sur la partie sportive, parce que j'ai eu pas mal de questions sur finalement un petit peu comment j'organisais les choses, comment je vois un petit peu les choses, etc. Alors, est-ce que je cours, est-ce que je fais du running en famille avec ma compagne notamment? Alors, running en famille, pour courir avec ma fille, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Ma fille a 3 ans et demi. On a essayé de faire des séances avec ma femme où on partait tous les trois, elle sur sa draisienne et puis nous en courant. Et en fait, ma fille a une caractéristique, c'est que elle aime bien faire des dérapages avec son vélo, avec sa draisienne. Elle accélère, elle freine, elle regarde un truc à droite, à gauche, etc. On a fait 2-3 séances familiales, comme ça, sur un tour du plan d'eau. Alors, à Cournon, pour ceux qui connaissent l'Auvergne, Clermont, etc., on a fait des tours de plan d'eau. On fait un tour de plan d'eau, notamment sur mes séances à alternance course et marche. Ma femme était aussi en séance alternance course et marche parce qu'elle a repris après avoir fait une longue pause en course. Elle avait une blessure, elle n'aurait plus à courir. Moi, après ma blessure au genou, on a fait les séances de reprise ensemble. Et puis, on a amené notre fille sur 2-3 séances. Soyons honnêtes, je ne vais pas aller courir 5 bornes avec ma fille andrésienne à côté. Et pour l'instant, avec ma femme, on court très peu parce qu'on n'a pas les mêmes vitesses. Et puis, comme elle ne pouvait plus courir, ben, on ne courait pas à la même vitesse. On a fait par le passé, notamment une course, on en parlait il n'y a pas très longtemps, à 5 km, le 5 km de Chape, pour ceux qui connaissent l'Auvergne, encore une fois, qui est la course des rois, que vous voyez, c'est le jour de la galette des rois. Et on l'a fait ensemble. Elle m'a dit, je crois que ce jour-là, tu as failli me tuer. Et en fait, c'est que c'était un objectif de voir courir 5 km, par exemple, en moins de 30 minutes ou moins de je ne sais plus combien. Et puis, bah forcément, elle n'avait pas eu trop d'entraînement. Ça avait été un petit peu compliqué sur les entraînements, etc. Et j'avais un peu poussé et on avait fait le dernier kilomètre un petit peu vite. Mais son un petit peu vite à elle n'est pas mon un petit peu vite à moi. Parce que forcément, moi qui cours tous les jours, même si en ce moment, je me sens vraiment comme un débutant. Hein, quand je vois mes vitesses, quand je vois tout, j'ai perdu 3 km/h en VMA hein, avec les opérations, avec ma pause, avec cette année un peu fourre-tout, un peu bordélique. Pour ça que je dis la blessure est le truc qui ralentit le plus. Mais ça, j'en reparlerai parce que ça fera un vrai sujet. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez courir et vraiment aller dans toutes les questions qu'on a posées, il faut arriver à ne pas se blesser, tout simplement. Mais ça, c'est une vraie question. C'est des vrais questionnements que j'ai en moi. Avec ma femme, oui, on peut aller faire des séances tranquillement, etc. Mais après, vous savez, on parlait de syndrome de l'imposteur, etc. Ma femme est persuadée qu'elle ne peut pas courir avec moi. Et elle est persuadée que si je me mets à courir à sa vitesse à elle, je m'ennuie. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des séances de fractionner, on a fait des choses comme ça ensemble. Quand je parle de fractionner, je ne parle pas de fractionner de vitesse, je parle des ces fameuses séances de 6 fois 1 minute ou 10 fois 2 minutes pour reprendre, etc. où on marche, on n'est pas tout à fait dans la même vitesse, tout simplement parce que moi j'ai des grandes jambes, elle a des petites jambes, même si on travaille la cadence de course à 180, mais en 180 à moi et mes petites foulées sont 180 à elle avec ses petites foulées à elle, je vais forcément un peu plus vite, hein. C'est inégal mais c'est de la physique, c'est comme ça, c'est ma longueur de foulée est plus grande, même si on fait la même longueur de foulée, etc. il y a un moment donné où elle peut avoir l'impression que je cours, que je m'ennuie si je cours avec elle, et ce qui est pas vrai. Ce qui est pas vrai, c'est juste que se dire, bah, cette séance-là, on l'a fait ensemble, donc j'accepte de courir, qu'on court ensemble et que notre vitesse soit la même. Mais bon, vous voyez, dans les syndromes de l'imposteur, on a aussi ces trucs-là que moi j'ai vécu aussi en club. C'est est-ce que je peux aller courir avec un club? Est-ce que j'ai le droit d'aller courir avec un club? Est-ce que j'ai le droit moral? Il y a un petit peu, est-ce que j'ai l'autorisation hein, d'y aller? Est-ce que je suis assez sportif pour le faire? Est-ce que je suis assez coureur pour le faire? Donc on revient toujours un petit peu sur ces questions-là. Et courir avec ma compagne, avec ma femme, c'est un petit peu l'une des questions qui se posent aussi. Mais je ne désespère pas qu'au fur et à mesure que ma fille grandisse, que par exemple quand elle va se mettre à faire du vélo, qu'elle roulera plus normalement en vélo, je puisse aller faire des séances, courir avec, moi je cours, elle pédale, et puis je désespère pas surtout, c'est que si elle court plus tard, quand elle va grandir, parce que j'espère bien qu'on arrive à lui faire du sport, et qu'on arrive à lui montrer, c'est pour ça que c'est important qu'elle voit aussi, elle me demande, mais papa, pourquoi tu cours? Elle me demande souvent pourquoi je cours. Et je lui explique que ça me fait du bien. C'est ce que je veux en fait qu'elle comprenne, c'est que ça me fait du bien, que c'est mon équilibre, etc. Elle comprend pas pourquoi je vais courir tous les jours. Et tous les jours, quand elle me pose la question, je dis « Camille, je suis mieux avec toi quand j'ai couru avant. » C'est l'une de mes réponses. Et j'espère, je me dis, peut-être un jour, qu'elle voudra bien courir avec moi ou qu'elle acceptera encore que son vieux papa court avec elle si elle fait de la course à pied, si elle fait du sport. Peut-être, mais ça pour l'instant à 3 ans et demi, on est plutôt sur de l'accompagnement, sur des choses comme ça et c'est pas vraiment des vraies séances. J'ai des questions qui m'ont été posées. Est-ce que je vais reprendre des dossards? As-tu des courses à l'étranger de prévu? Des dossards, je le dis très clairement, pas pour le moment. Je vous ai beaucoup parlé, j'ai eu beaucoup d'hésitations. Ceux qui sont abonnés aussi au Patreon pour me soutenir, j'en parlerai parce que ça fait partie des financements, mais si vous me soutenez sur Patreon, ça permet de... Vous avez les épisodes sans la pub et puis vous avez aussi mon journal d'entraînement tous les lundis où je vous détaille un petit peu mes pensées, je vous détaille aussi un petit peu ce que j'ai fait, etc. Je disais que j'avais l'ambition de courir un marathon à cet automne-là et au début j'ai même... J'étais pas très loin de prendre le dossard du marathon de Lyon, qui était le 3 octobre, sachant que mon anniversaire c'est le 2 octobre, donc ça aurait été mon marathon d'anniversaire. Et l'ambiance des courses me manque, mais je n'ai pas envie, pour l'instant, d'aller prendre des dossards. Voilà. Cette année, je pense que ça sera une année vraiment, pour le moment, elle est sans dossard. Alors, bien sûr, si on me dit, je vous offre le dossard marathon de Paris, de Lyon, de New York, ou ce que vous voulez, je vais y réfléchir. Vraiment y réfléchir, ça c'est sûr. Mais pour le moment, je n'envisage pas de prendre le dossard. Je m'étais posé la question, ce week-end, il y a une course, j'y vais pas, ça aurait pu être sympa, etc. J'y vais pas pour faire un temps, de toute façon, c'est un 10 km. J'ai pas vraiment à 10 km dans les jambes pour le moment avec ma rééducation et ma reprise un petit peu lente. Courir le marathon, oui, ça aurait été pour le symbole après l'opération des ménisques, du ménisque. Oui, voilà, il y a des choses comme ça qui pour symboliquement. Mais en fait, courir un marathon symboliquement, je peux le faire tout seul. Je peux le faire sur mes chemins. Et c'est là, en fait, aussi ce qui va beaucoup évoluer, c'est dans mes futurs projets. J'ai beaucoup rentré dans des défis personnels. C'est-à-dire que quand on me demande mes futurs projets, il y a des projets que je vous ai donnés, en fait, que je vous ai donnés. Et il y a des questions qui m'ont été posées. Quand te lanceras-tu sur Ultra? Eh bien, l'an prochain, en 2022, donc, j'aimerais bien... Alors, c'était prévu pour cette année. C'était l'objectif 2021. Normalement, on était inscrit avec Hermano. On était inscrit, d'ailleurs, sur le Swimrun Ultra des Gorges de la Loire, où on avait 3 km et quelques de nage et puis 47 bornes de course à pied. Donc là, on rentrait dans le domaine de l'ultra, ça aurait dû être mon ultra, de même que je m'étais posé la question de faire un ou deux ultras dans le coin, etc., de passer la cape des 50-60 km. Bien entendu, avec les blessures, avec dès le mois de janvier, hein, le genou qui s'est mis à gonfler, etc., l'opération du ménisque en mars, etc., bien entendu, vous comprenez que le défi ultra, c'était impossible cette année de rentrer en ultra, mais oui, l'objectif 2022, c'est de passer cette fameuse barrière des 42-195 et d'aller au-delà, viser peut-être 50 km. Ou comme le disait Philippe, hein, c'est juste faire un jour un marathon et puis rajouter 100 mètres après. On verra, mais en tout cas, oui, c'est un objectif sur 2022. Mais je vous en ai annoncé d'autres, des objectifs sur le futur. Vous savez que un des gros objectifs dont je parle régulièrement, c'est l'Ironman 2023. Et l'autre objectif qui me fait rêver, c'est d'arriver à participer au marathon Open Olympique de Paris 2024. C'est ce marathon qui est ouvert à tout le monde, sur le même parcours, le même jour, etc., que celui des Jeux Olympiques. Donc ça, c'est mon objectif, Paris 2024. Chacun son objectif, hein, Paris 2024. C'est ma médaille d'or à moi, hein, que je vise pour 2024. Ironman 2023, ça, c'est un objectif. Et puis, il y a un truc, mais c'est un truc, mais ça, je vous l'ai pas dit, c'est que à force de parler avec des mecs, comme Stéphane Ullaric. À force de parler avec Stéphane Ullaric, parce que j'ai fait deux épisodes avec Stéphane Ullaric, il y en a un sur podcast Sport Nutrition, et il y avait celui de la semaine dernière sur ce podcast ici, sur Kimène 42. À un moment donné, je regarde un petit peu ce qu'il fait, je regarde un petit peu tout ça, et puis pour l'Ironman, j'ai besoin de faire du vélo. Mais moi, faire que du vélo de route, c'est pas le truc qui va me plaire. Vous voyez, quand je vais courir, je cours 60%, 70% sur chemin, 10% sur piste quand le club est ouvert, et puis le reste c'est un peu de route à droite à gauche, etc. Et le vélo, je me dis, si c'est pour aller rouler au milieu des bagnoles, ça m'intéresse pas. Et ce qui m'intéresse depuis quelques temps, c'est le gravel. Et ben Stéphane Ullaric, gravelman, voilà, ça c'est un objectif, ça c'est un truc. Vous voyez, si je devais reprendre un dossard, ça serait celui d'un gravelman 2022, ça serait un bel objectif. Alors d'abord, il faut que je me trouve un vélo. Ça, c'est mon premier objectif d'investissement, c'est d'investir dans un vélo, d'avoir un gravel qui soit assez polyvalent pour aller faire mes chemins, etc., pour faire plein de choses, et puis me dire que après, ça me permettra de préparer l'Ironman 2023. Voilà, tout simplement, c'est-à-dire que le cap, hein, vous savez, les fameuses étapes, comment je décompose mon problème, comment je décompose ça. Pour faire un Ironman, j'ai trois trucs à résoudre. J'ai comment courir un marathon. Ça, je sais m'y prendre, mais comment courir un marathon après avoir fait du vélo il faut d'abord avoir fait du vélo, et comment le faire après avoir nagé? Il faut avoir nagé. Donc je dois découper tous ces morceaux-là, nager, entraînement natation, ça sera par partie des gros morceaux de l'an prochain et de l'année d'après bien sûr, l'entraînement vélo, ça fera partie des gros morceaux, bien entendu, aussi. Et puis après, sachant que moi, mon objectif Ironman, c'est de le finir. Hein, c'est pas de faire un temps ou quoi que ce soit. J'ai pas d'envie d'avoir un vélo qui ne serve à rouler que sur la route, avec des roues carbone, un truc qu'on n'ose pas casser, qui soit chiant à lancer, etc. J'ai travaillé pendant 3 ans pour un magasin de vélo. Donc j'ai vu le prix des vélos, j'ai vu le matériel, etc. Moi j'ai pas envie d'avoir un vélo, vous savez, un vélo Formule 1, etc. que vous ne sortez que pour faire quelques courses, etc. J'ai pas envie de ça. Moi en fait j'ai envie d'avoir un gravel qui passe à peu près partout, qui puisse l'amener partout et que le jour de l'Ironman je puisse y mettre des roues pour rouler sur la route et que une fois que l'Ironman est terminé je remets mes roues, mes pneus pour aller rouler sur des chemins, autour de la maison, etc. De faire un mix entre route, caillasse, gravier, etc. Voilà, c'est ça mon truc, c'est ma vision à moi, elle est là-dedans. Et puis à ça, je voudrais rajouter des défis personnels. Et des défis personnels, c'est de trouver des défis vraiment... vous voyez, c'est l'esprit off, mais pas forcément le off en se disant « Voilà, je vais faire un off, je vais traverser la course, c'est plus possible. » Ou le off, comme avait fait Thomas, vous savez, qui a réussi son défi de traverser la fameuse trace à travers les volcans d'Auvergne, etc. Ça, c'est des défis intéressants. Et on en avait parlé aussi avec la petite famille qui courait pour les enfants de l'hôpital, du CHU, etc. Donc tout ça, ce sont des défis intéressants. Mais en fait, là, c'est l'impact de Lilian Dosa. On avait parlé des micro-défis dans sport et nutrition. On avait parlé de plein de micro-défis. Micro-défis, ça peut être de dire... lui il dit tiens c'est de passer sur une ligne droite, enfin une ligne droite et de voir comment on fait pour passer de tel endroit à tel endroit en passant sur une ligne droite. Ça m'a donné plein d'idées en fait. J'ai creusé, puis même là j'ai des trucs sur les micro défis. Je vous renvoie vraiment à écouter cet épisode là parce qu'il est vraiment très intéressant. Et ça par contre c'est un truc qui me chauffe un petit peu. Et dans ces micro défis il peut y avoir des défis mais qui sont vraiment j'ai envie de dire ça peut être de monter 10 fois la montagne que j'ai au-dessus. D'habitude, je la monte une fois ou deux fois. C'est la monter 10 fois, ce qui va faire un dénivelé peut-être de 1000 mètres sur en x kilomètres. Ça peut avoir une sorte de kilomètre vertical sur quelque chose qui n'est pas du vertical. Ça peut être... j'ai un projet, par exemple, c'est... c'est l'éco-firon, c'est d'aller boire le café en courant. Alors l'idée c'est que si vous suivez mon compte Instagram @BertrandSoulier, c'est que vous voyez que le vendredi je vais au marché patron de la maison et qui était juste à côté de la crèche, et j'y retrouve Luc qui est un vendeur de café qui est ambulant. Et Luc, du Willy Break, c'est un gars qui est super sympa et qui a transformé sa moto avec un sidecar en truc de café quoi, en coffee, je sais pas quoi. Coffee break quoi. Et en fait il a du café de très bonne qualité, il a sa machine et puis il est totalement autonome, il peut se mettre à n'importe où hein, quasiment, du moment qu'il a un petit peu d'électricité. Et puis il fait des très très bons cafés, il est très sympa, on discute. Et un jour je lui dis bon écoute, c'est où que tu vas la prochaine fois? Il me dit bah je suis à tel endroit. Et je lui dis bah tiens je viendrai boire un café. Et puis je regarde le truc et il me dit oh pff, ça fait loin. Puis je regarde, en fait ça faisait que 13 km aller et 13 km retour. Et ben vous voyez par exemple, je me suis dit tiens, on pourrait faire un défi, c'est un jour plutôt que d'aller boire le café là où il est à 3 km, c'est d'aller le boire à 13 ou 14 bornes et de faire aller-retour. Et ce sera mon truc, vous voyez, les boulanges run, et ben ça pourrait être le coffee run. Je m'étais même dit sur une semaine, le lundi il est à tel endroit, ça fait 13, l'autre jour il est à tel endroit, ça fait 3, et puis un autre jour il est à un endroit, ça fait 10, et puis etc. Et de faire une semaine de coffee run avec lui. Vous voyez, par exemple, ça peut être un truc comme ça. Et en fait, dans les micro-défis, j'ai des micro-défis qui étaient amusants. J'avais aussi dit, ça serait d'arriver, quand je maîtrisais l'équipe sur les mains, le handstand, c'est d'aller faire un handstand sur là où j'ai, par exemple, j'ai un, autour de la maison, quand je parle de la maison, j'ai 3 petits sommets. Et ben, ça serait d'aller faire un stand au sommet des 3 sommets. Au sommet des 3 sommets, c'est ça. Et faire un stand au chaque sommet, et puis faire une photo là-haut, et puis redescendre à la maison, ce qui me ferait, je crois que ça fait 18 ou 19 kilomètres, plus des handstands, plus un petit peu, vous voyez, des trucs un peu rigolos. Ça pourrait être d'aller danser au sommet de je sais pas quelle montagne, etc. Enfin, vous voyez, un peu cet esprit-là, mais vraiment dans le fun. De même que j'avais fait un épisode, vous savez, sur comment on ajoute un peu de fun dans la course, faire des courses avec des bus, des choses comme ça. Vraiment, je vous renvoie aussi, alors, avec l'épisode avec Lilian, mais aussi l'épisode avec Phil Ufo, Phil Belliard, sur, il parle, où il montrait vraiment son amusement. Si vous le suivez sur Instagram, c'est vraiment, il est vraiment aussi là-dedans, et c'est vraiment un personnage que j'adore. Et d'ailleurs, dans les invités, j'ai d'autres personnages, vous allez voir, qui j'ai invité, on va avoir des trucs amusant, vraiment amusant. Mais voilà à peu près mes défis. Ça me permet d'enchaîner sur la dernière partie qui m'ont été posées, notamment sur les questions autour de mon futur, alors sur le futur du podcast et sur mon futur professionnel et sur ma vie pro et notamment ma vie de sportif. Quels invités aimerais-tu avoir ? Ah ! Alors c'est une question que j'ai posée. Notamment sur Instagram, j'ai mis une boîte à questions demandant bah, quels sont les invités que vous aimeriez vous entendre. Et en fait, j'ai des noms qui ont été donnés. Alors bien sûr, François Daen, Kian Jornet, voilà. Et ce sont des gens que vous avez entendus sur d'autres podcasts. Si vous suivez d'autres podcasts running, vous les avez entendus sur d'autres podcasts. Et franchement, je le dis, hein, Ultra Talk avec Kian Jornet, c'est un épisode où Kian Jornet, il dit des trucs qui sont super intéressants et j'aurais posé plein d'autres questions. J'avais plein d'autres questions à lui poser et j'aurais posé d'autres questions d'une autre manière. Et oui, ça me fait envie. Je dis pas Kian Jornet, oui. Mais en fait, c'est pas ceux-là qui me font vibrer le plus, en fait. Et je vais vous dire un truc, il y a deux types de personnes qui me font vibrer le plus. Les premières personnes sont mes mentors, sont des personnes qui, pour moi, dans leur guide de vie m'intéresse. Et vous voyez, par exemple, on pourrait parler de Rich Roll, Jesse Itzler, Ella Good. Et le problème là, c'est que je viens vous parler de trois Américains. J'ai aussi The Natural Lifestylist qui est en Angleterre, qui court pieds nus, etc. Un ou deux qui court pieds nus, etc. aussi. Et là, on n'est que sur de l'anglophone, en fait. Et là, c'est un premier problème. Ça, c'est un premier problème. Ensuite, ceux qui me font vibrer, eh ben, c'est vous, en fait. C'est-à-dire, c'est comment vous vivez vos courses, etc. Vous savez les épisodes Dernier Ravito, vous n'êtes pas connu, mais vous méritez d'être connu, en fait. Je le redis, hein, c'est que la préparation, vous pouvez regarder les athlètes de très haut niveau, ce qu'ils font, etc. Mais quand vous regardez les conditions dans lesquelles ils font, un athlète qui est pro, qui s'entraîne, il s'entraîne tous les jours, il s'occupe de son alimentation, il a des masseurs, il a des kinés, des entraîneurs, il a tout ça, il a des budgets pour le faire, etc. Il a des sponsors. Nous, préparer un marathon, préparer un Ironman, préparer un triathlon, avoir des heures d'entraînement, etc. Dans des conditions dans lesquelles on fait, avec le boulot à côté, les enfants, le travail, etc. C'est nous qui devons avoir des médailles. Bien sûr, c'est pas les mêmes médailles. C'est les médailles d'être capable d'être au départ, d'être capable d'être en bonne forme, d'être capable de le faire vraiment, sans tout sacrifier. Être un bon papa, être un bon mari, être un bon coureur, être un bon pro, etc. Dans mon domaine, c'est un défi. C'est un défi. Et tous, vous tous qui le faites, je vous donne des médailles. Vous, les mamans qui courez avec des enfants, la charge mentale, les enfants. Et attention, les papas aussi, on a de la charge mentale. Je peux vous le dire. Mais vous aussi, on doit vous donner des médailles. Je veux dire, là aussi, il y a une médaille à donner. Et là-dessus, j'adore ces épisodes-là. J'adore ces épisodes-là, en discuter avec vous, de voir comment vous faites, comment vous organisez, etc. Et c'est ça aussi que j'ai envie de vous inviter. Et donc, ces noms d'invités, je peux pas vous les donner. Puisque je les connais pas, je vous connais pas. Et comment j'ai, des fois il y a des invités, je regarde un petit peu, je regarde des comptes sur Instagram, je dis, oh, tiens, il fait ça ce truc-là? Putain, mais c'est, comment il fait ça? Eh ben, j'ai envie de le savoir. Et j'en lance une invitation. Alors, dans les noms, dans les podcasts, j'ai quelques noms, quelques personnes qui m'ont été soumises. Il y a des grands noms. Je vous le dis, par exemple, je sais pas si ça va se faire, mais on m'a dit Stéphane Plaza, par exemple. Et j'ai échangé quelques messages avec Stéphane Plaza. Est-ce que oui ou non il viendra ou pas, voilà, ça fait partie des questions. Il y a quelques personnes un peu connues aussi dans le domaine fitness qui m'ont été recommandées et qui ont dit oui. Il y a des personnes qui sont plutôt des auteurs, il y a des personnes, vous voyez, il y a quelques personnes comme ça que j'ai vraiment envie d'inviter, d'avoir des gens comme ça, mais ça je vous garde un petit peu la surprise aussi. J'ai en tête aussi des petits jeunes Bah, par exemple, j'ai expliqué à un petit jeune il n'y a pas très longtemps, écoute, un jour je t'inviterai bien dans le podcast, quand tu reviens parce qu'il fait des études, il n'est pas à Clermont, mais quand il reviendra, un jour j'aimerais bien t'inviter dans le podcast pour discuter de ce que c'est de la course à pied quand t'as 18 ans, 19 ans, etc. Quand il court à son niveau, à quel niveau il court, etc. Qu'est-ce que c'est pour lui aussi, la course? Il y a les fameux épisodes avec les papas, avec les mamans, vous voyez, il y a tout un tas d'épisodes comme ça. Et puis, bien entendu, les petits épisodes aussi avec certaines marques, à faire découvrir certaines marques, etc. Des petites marques, avoir aussi peut-être des personnes, des athlètes un peu en devenir, vous voyez, aussi les athlètes autour de tout ce qui est handicap, etc. Enfin voilà. Donc il y a plein de gens. Mais ce qui est sûr, c'est que je veux pas avoir un podcast où il n'y a que des gens qui vous en mettent plein à vue et des choses qui nous semblent impossibles à faire. C'est ce que j'aime bien chez Steven Lujarric, en fait, c'est que, et même Perrine Fage, vous voyez, que Perrine Fage, quand elle fait bien sûr, elle a fait l'Ironman, bien sûr, elle vous dit, elle a fait l'Enduroman, elle a fait Hawaï, etc. Mais quand elle vous présente les trucs et quand vous regardez comment elle fait l'UTMB, vous voyez que c'est pas inaccessible, en fait, certaines choses qu'elle fait. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont inaccessibles. Steven Lujarric, il y a des choses, dans ce qu'il fait, c'est inaccessible. Parce que il roule en vélo depuis 30 ans, parce que le vélo, c'est sa prolongation de son corps. Et parce qu'il a couru à très haut niveau, parce qu'il était élite, parce que voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand il fait un gravelman, quand vous voyez l'encouragement qu'il met des gens du gravelman, quand vous voyez comme il accompagne les gens aussi sur l'UTMB, etc., comme il encourage, les messages qu'il met, le positif qu'il met, etc., c'est bien sûr qu'il y a des choses, par exemple la Namibie, c'est moi, ou le Norseman, pas le Norseman, Norseman c'était Perrine, mais le Northcape, etc., bien sûr, la vitesse à laquelle il le fait, on se dit c'est pas possible. Par contre, ce qui rend accessible en faisant le gravelman et comment il le fait, en mettant l'application, en faisant attention, en faisant les encouragements, la présence qu'il fait là-dessus, oui, ça, vous voyez, je me dis ça fait partie des sportifs qui rendent accessible l'aventure, qui rendent accessible les choses. Lilian Doza, moi, un mec qui me dit traverser l'Atlantique à la rame, ça me semble inaccessible. Et puis en discutant avec lui, je dis pas que je vais traverser l'Atlantique à la rame. Alors là, c'est pas du tout mon ambition. Mais je me dis, sa manière de voir l'aventure, sa manière de voir le progrès, sa manière de voir les choses, oui, ça rend les choses accessibles. Et en fait, le but de ce podcast, c'est qu'on devienne tous champions du monde de notre monde. Hein, et c'est ce qui va me permettre de boucler sur la fin, en fait, hein, les dernières questions que j'ai eues. Mais mon ambition, c'est que je pense que nous devons tous devenir champions du monde de notre monde par le biais de l'activité. Certains, ça va être par du vélo, certains, ça va être du triathlon, certains, ça va être par la course, certains, ça va être, on peut être champion du monde de son monde en courant à 10 km, parce que ce 10 km, il représente tellement pour nous, il représente tellement de choses. Certains, ça va être par un marathon, certains, ça va être par ultra, certains, ça va être par courir le TMB, je ne sais pas, d'autres, c'est le marathon des sables, etc. Quand vous discutez avec des gens qui ont fait le marathon des sables, vous vous rendez compte que sur le marathon des sables, en fait, vous avez des choses qui vous paraissent inaccessibles, et quand vous discutez avec ces gens-là, ben non, en fait, le marathon des sables est peut-être plus accessible qu'il y paraît, hein, malgré ce qu'on dit sur la course la plus dure du monde, etc., que c'est pas le même type d'effort, que c'est pas le même type d'effort qu'un UTMB, que c'est pas le même type d'effort qu'un Thor, que c'est pas le même type d'effort que la Swiss Peaks ou je ne sais quoi, mais que le niveau qu'on va mettre et sur les entraînements, on va avoir plein de choses qui vont être dedans. Mais c'est là où vraiment ce que je cherche dans le podcast, c'est pas d'avoir alors bien sûr, moi clairement on a Renaud Lavillani, il est allez, à 2 km, 3 km de la maison, je peux aller passer vers chez lui en courant à peu près, parce que je vois à peu près où il habite, etc. Bien sûr que j'aimerais faire aussi des épisodes, vous voyez, Steve Savidan, qui a été international de foot, qui a été meilleur buteur de Ligue 1 ou deuxième buteur de Ligue 1, etc., qui a été pro, et bien sûr, moi pour moi, quand il me dit oui, je lui dis, oh, et bien sûr que c'est inaccessible de devenir footballeur professionnel, etc. Mais Steve Savidan, ce qui m'intéressait, c'est son message. Ce qui m'intéresse, c'est le message. Si un sportif olympique, il a un message qui nous permet à nous tous de progresser, à nous montrer un petit peu comment on fait les choses. Là, j'ai vu par exemple des mecs, il y a une ou deux personnes que j'ai en tête, que j'ai vraiment envie de discuter avec eux. Vous voyez, vraiment envie de discuter avec eux, mais pas de leur carrière, mais de comment leur philosophie du sport, de comment ils font les choses. Parce que c'est ce qui m'a permis de boucler sur les deux dernières questions. J'ai eu deux questions, en fait, sur mes années de reconversion. Quel bilan j'en fais? Les difficultés, est-ce que c'est compliqué, est-ce que j'ai des doutes dans ce chemin de sportif pro, etc. Et deux, une autre question qui était, depuis combien de temps je me consacre au sport à 100% et est-ce que mon boulot ne me manque pas? Alors, deux questions. Depuis combien de temps je me consacre au sport à 100%? Et j'ai envie de dire une journée. En fait, je ne peux pas me consacrer au sport à 100% pour une raison qui est simple, c'est que pour l'instant, la partie kilomètre 42, la partie sport, ne me rapporte pas assez d'argent pour vivre. C'est pour ça que j'ai besoin des sponsors sur Patreon. Je mets le lien dans les notes d'épisode. Le fait que certains d'entre vous aidiez le podcast en finançant, en donnant à partir de 1 euro par épisode sur Patreon, m'aide à payer certaines choses. Le fait qu'il y ait de la pub dans tous les épisodes m'aide à payer certaines choses. Le fait, et je vous le dis parce qu'il y a un annonceur qui va arriver dans pas longtemps, quand il y a certains annonceurs qui arrivent, mais c'était le cas par exemple avec Adidas, quand Adidas sponsorise le podcast avec des chaussures, qu'on fait un épisode dédié, etc., à certains modèles, pour moi, ça représente plusieurs mois de revenus, en fait, vous voyez? Et donc, si j'avais plusieurs épisodes dans l'année avec des gens comme Adidas, si j'avais plusieurs sponsoring type Nike, etc., si j'ai d'autres sponsors de ce type-là, ou si j'avais des sponsors matériels, etc., je ne pourrais quasiment faire que du sport. Quasiment faire que du sport. Mais le être sportif pro à ma manière, ce n'est pas de me consacrer, c'est pour l'instant, ce n'est pas faire que du sport, c'est dire aussi qu'à un moment donné, il faut que je le finance. Et on revient en fait sur la même logique que comment est-ce qu'un sportif pro finance sa carrière. Sauf que moi, je n'ai pas besoin de financer. J'ai pas besoin de faire 5 ou 6 heures de sport ou 3 heures ou 4 heures de sport par jour pour gagner une médaille olympique. J'ai pas besoin de monter à ce niveau-là. J'ai pas besoin d'avoir un coaching, du PM, de tout un truc. Moi, c'est plus bas. Moi, ce qu'il faut que j'arrive à faire, c'est payer les factures de la maison, c'est nourrir ma famille avec ma femme, etc. Qu'on arrive à nourrir notre fille, qu'on arrive à se nourrir nous, qu'on arrive à se payer des baskets, qu'on arrive à payer la maison, qu'on arrive à avoir du temps libre, etc. Et ça passe par plusieurs modes de financement. Et dans ces modes de financement, il y a donc la pub, il y a Patreon, il y a aussi ce que je fais à côté, c'est-à-dire que sur mes activités, j'ai un peu d'activité de freelancing, par exemple sur en freelance, j'aide une entreprise sur sa communication numérique. Voilà, donc ça c'est une activité, je peux pas dire que ça soit dédié au sport, c'est pas dédié au sport, mais je ne peux pas l'arrêter. Et la question qui était posée c'est, est-ce que ça me manque pas? Est-ce que mon ancien boulot ne me manque pas? Mais de quel ancien boulot on parle en fait? Dans mon parcours en fait, je vais le retracer en quelques lignes. Moi j'ai été élevé dans le culte de trouve-toi un boulot, fonde une famille, et puis une fois que tu auras un boulot, le boulot le plus stable possible, tout ira bien, tu te payes la maison, etc. Moi, j'ai été éduqué dans ce culte-là. Le culte du salarié, voire même du fonctionnaire, en fait, vous voyez. Il y a pas encore si longtemps que ça, ma mère, elle me remontait les trucs en disant, bah tiens, t'as vu, il cherche des instits et tout, il y a ça qui embauche, il y a ça, et c'était systématiquement de la fonction publique. Je peux pas lui en vouloir, je peux pas en vouloir à mes parents, en fait, hein, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est, moi je suis né en 76, dans les années aussi où on voyait, il fallait faire ça, avoir un boulot, faire telle ou telle chose, etc. Et le sport n'était pas un boulot, soyons honnêtes, n'était pas un boulot. J'ai eu plein d'expériences dans ma vie qui, de toute façon, m'ont éloigné du sport ou m'ont laissé penser dans ma tête. Vous voyez, quand on passe des blessures mentales, vraiment des blessures mentales, m'ont amené dans ma tête en disant que je pouvais pas faire de sport. C'est-à-dire que, en fait, à chaque fois que j'avais un niveau de sport qui commençait un petit peu à monter, je pouvais pas en faire. Ça commençait très jeune parce que, par exemple, à 7 ans, j'ai un souvenir qui est très marquant de, on était qualifié pour la finale du championnat de France de foot. Vous voyez, les poussins, là, à l'époque, on appelait ça. On gagnait les tournois. Et moi, j'ai pas été choisi pour aller dans l'équipe qui allait à Paris. Alors que, finalement, j'avais fait tous les matchs. Pourquoi j'ai pas été choisi, j'en sais rien. On m'a jamais expliqué, mais ça reste un traumatisme. Et ce traumatisme-là, en fait, ce traumatisme, finalement, c'est une part d'ombre, vous voyez, qui fait que qui marque en fait en disant bah oui mais finalement tu peux pas être sportif, ton truc à toi c'est pas être sportif, toi t'as pas été fait pour être sportif. Et ensuite j'ai eu un genou plâtré parce que j'ai grandi trop vite, des trucs, vous voyez, les manitos good, etc., plein d'autres choses comme ça. Bien sûr, j'ai fait des études. J'ai fait des études, j'ai pas fait de sport, j'ai grossi, j'ai travaillé, j'étais salarié pendant 10 ans, et puis 12 ans, et puis les dernières années de salariat, je travaillais dans une collectivité locale, j'étais victime de harcèlement moral. J'avais la peur au ventre le dimanche soir quand j'ai retourné au boulot. J'étais le matin tôt au boulot, malgré que je travaillais dans la fonction publique. J'étais le matin tôt au boulot, j'en repartais tard le soir. C'est-à-dire qu'il y a le lundi matin, j'étais au boulot à 7h30. Et des fois, j'en partais à 7h le soir. Ouais, 12h dans la journée, vous dites, ah, tiens, en 2 jours, ma semaine était faite. Oui, en 2 ou 3 jours, ma semaine aurait été faite, sauf qu'elle faisait bien 5 jours, etc. Et c'est l'époque où j'étais le plus mal dans ma vie, entre le harcèlement moral, c'est aussi là où j'ai pris du poids, c'est aussi là où j'ai bouffé n'importe comment, c'est là où je suis vraiment devenu le hamster dans sa roue. Et c'était il y a 10 ans pile, j'en suis parti il y a 10 ans pile, le 1er juillet je me suis évadé de ce premier monde là, et je peux vous garantir que ce boulot là ne me manque pas du tout quoi. Moi je suis indépendant depuis 10 ans, je travaille indépendant pendant 10 ans, mais pendant ces dernières années qu'est-ce que j'ai fait? J'étais freelance, j'étais prof à la fac, j'ai fait des cours, j'ai fait plein de choses comme ça, et le podcast en tant que tel était toujours un loisir en fait. Vous voyez, ça fait 4 ans que je fais du podcast, ça fait 3 ans que Kilomètre 42 est sur pied. Mais c'était toujours un loisir. Et puis à un moment donné, il y a des marques qui ont commencé à venir à taper à la porte, il y a des sponsorings qui commencent à venir, et les montants qui commencent à se présenter sont intéressants et me permettent d'envisager justement de devenir sportif pro à ma manière. Mais sportif pro à ma manière, c'est quoi? Donc je vous l'ai dit, c'est, vous voyez ces couches-là. Première couche, donc, je le répète, il y a Patreon. Deuxième couche, la publicité, ou plutôt publicité, Patreon. Une autre couche que je vais rajouter, donc il y a ces histoires de freelancing que je peux regarder. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, hein, je pourrais très bien être freelance en communication numérique, etc. Dans tout ce qui est, par exemple, dans des marques de sport, des marques de running, pourquoi pas même aider des gens à faire leur com, des athlètes à faire leur com, etc. Enfin, et on pourrait imaginer beaucoup de choses. Aider des marques à faire leur podcast aussi, vous voyez, ça se fait partie aussi de ce que je suis capable de faire. Et donc là-dessus, il y a pas de problème. Et là, on reste dans le domaine du freelance, mais on serait dans de freelance plutôt lié au sport. Donc ça fait partie des choses qui sont envisageables. Mais maintenant, l'avenir, c'est quoi? Aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre quand j'enregistre cet épisode et quand je diffuse ce premier épisode. Et aujourd'hui, c'est le début aussi d'une formation que je vais suivre sur la préparation mentale. Donc aujourd'hui, j'attaque une formation sur la préparation mentale qui va durer entre 3 et 4 mois. Le but du jeu, c'est d'être diplômé fin d'année ou début janvier 2022 et d'être diplômé en préparation mentale. Et pourquoi? Parce que, ça j'en reparlerai beaucoup, c'est que le côté mental, c'est le côté qui manque le plus. Et j'ai pas envie d'être juste faire la préparation mentale, par exemple, en entreprise, vous voyez, c'est pas trop le truc. En fait, j'ai envie de faire la préparation mentale pour vous aider, vous, à devenir champion du monde de votre monde. C'est ça mon truc en fait à moi. Et c'est là où on va arriver sur la suite. Et c'est pour ça que je réponds aux deux questions en même temps. C'est en fait, est-ce que j'ai des doutes sur ce chemin? Oui, j'ai des doutes. Pourquoi je dis que c'est ma première journée vraiment où je me consacre 100% au sport? C'est parce que à côté de ça, j'ai un autre podcast qui s'appelle La Vie Créative, j'ai un site qui s'appelle Votre Coach Web sur lequel je vends des formations si vous voulez créer du podcast. J'ai des formations qui peuvent vous aider à créer du podcast. Je peux vous faire du coaching sur l'accompagnement, comment créer un podcast, comment créer du contenu en ligne, comment développer votre compte Instagram, comment développer votre marque si vous êtes coach, si vous êtes une marque, etc. J'ai des formations sur comment faire plein de choses. J'ai plein de formations sur l'organisation du temps, sur plein de choses comme ça. Et ça, en fait, cette partie d'activité va un petit peu pendant quelques temps être réduite, parce que ce que je sais, ce que je suis capable de faire, c'est, j'ai fait 10 ans d'enseignement universitaire, et j'ai fait tout autant de formations pro, et vous savez que je suis capable de, souvent on me dit que je suis pédagogue, etc. Et en fait, je me dis maintenant, il est temps que je vous aide aussi à progresser. Je suis pas coach diplômé en course à pied, c'est pas moi qui vous faire des plans de course, etc. Par contre, vous aider comment est-ce qu'on organise son temps, comment on met en place des routines de sport, des routines de vie, comment est-ce qu'on organise, comment on peut structurer son agenda, comment on peut structurer son temps, comment on peut faire ça. C'est des choses que je faisais avant sur la partie Votre Coach Web et que je vais déplacer maintenant sur cette partie-là autour de Kilomètre 42, autour du sport. Vous allez voir, alors si vous êtes inscrit à mes mails, hein, vous avez un petit bonus, j'ai fait un petit guide, je vous mets le lien dans les notes d'épisode, si vous, mes erreurs que j'ai fait en préparant un marathon. Et après derrière, j'envoie des mails de temps en temps et puis je partagerai aussi dans l'Amsterdam Running Club. Donc si vous voulez, inscrivez-vous à tout ça pour suivre un petit peu les activités, j'en parlerai aussi dans le podcast bien entendu. ce côté-là de formation, je vais monter des ateliers, par exemple, sur comment est-ce qu'on prend des habitudes sportives et comment on fait pour les garder. Comment on peut progresser dans tel ou tel domaine. Et puis, je vais y rajouter aussi le domaine coaching, préparation mentale, etc. Il y a un autre domaine qui m'intéresserait, ça veut partie yoga et running, ce qui m'intéresserait. Mais d'abord, il faut stabiliser la première partie. On fait les choses une à l'une. Et donc, vous voyez, ça rajoute une couche. C'est-à-dire que dans mon niveau sportif pro, à ma manière, il y a aussi ce niveau-là. Et puis, il y aura un dernier niveau, c'est d'avoir des sponsors, des partenaires. Vous voyez, par exemple, je suis partenaire officiel chez Coros, je suis partenaire avec ambassadeur chez Happy Run aussi. Et bien, ça serait d'avoir d'autres partenaires, d'autres sponsors de ce type-là. Par exemple, on parlait de vélo. Moi, quand on regarde un petit peu le monde du vélo, dans le gravel, etc., je suis persuadé qu'il y a des choses à faire. Et j'aimerais aussi avoir, me dire, bah tiens, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent se faire avec certains partenaires. Il y a des marques dont j'ai beaucoup parlé, qui ne m'accompagnent pas et qu'un jour j'espère qu'ils m'accompagneront. J'aimerais qu'ils m'accompagnent. Il y a d'autres marques qui m'accompagnent dans mon quotidien et qui ont, notamment dans ma perte de poids, etc. Et je me dis, bah, vous savez ce qu'on dit, on fit, hein, on est pile aligné, hein, dans les logiques. Je me dis, ben là aussi, ça fait partie des gens que je pourrais démarcher. Donc là, vous voyez, ça rajoute des éléments. Et puis, il y a un dernier élément qui est la partie de la communauté. Alors, la partie communauté, c'est un peu Patreon. Et puis, c'est surtout l'Hamster Zoning Club. Et dans le Hamster Zoning Club, en fait, c'est la plateforme, je vais le dire sans langue de bois, hein, je vous dis vraiment grosso modo, la plateforme d'hébergement du Hamster Running Club me coûte de l'argent, c'est le prix pour ne pas être sur Facebook, c'est le prix pour ne pas être dans les réseaux sociaux classiques, le prix pour ne pas vendre vos données à n'importe qui, notamment à toutes les marques qui voudraient sniffer vos données pour vous faire de la pub. Cibler sur vos problèmes de poids, sur vos problèmes de trucs, sur vous vendre des t-shirts à la con, etc. Et cette plateforme coûte pour l'instant autour de 25€ par mois, on va dire à peu près, parce que ça varie avec le dollar. Mais moi, je voudrais passer à la version supérieure, et cette version supérieure va coûter environ 100€ par mois. Cette version supérieure va permettre de mettre en place des fameux cours en ligne avec, par exemple, je voudrais avoir des cours sur comment est-ce qu'on se lance dans la course à pied avec le soutien de la communauté autour. C'est-à-dire que faire un plan d'entraînement où ensuite vous avez votre plan d'entraînement, vous êtes seul face à un plan d'entraînement, ne m'intéresse pas. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire comment est-ce que je peux vous fournir des outils pour vous apprendre, par exemple, à courir, mieux courir, avoir des habitudes sportives, avoir des habitudes, des routines sportives, des routines alimentaires, etc. Ça, c'est un premier point. Comment on peut se fixer ensemble avec moi, avec la communauté, avec des petits groupes d'entraide, etc. Des défis, des objectifs. Comment est-ce qu'on s'encourage? Comment est-ce qu'on se trouve des partenaires d'entraînement, même s'ils sont à distance, etc. Et puis, derrière ça, comment je vous donne du contenu qui vous aide, par exemple, on pourrait dire sur les étirements, sur la préparation mentale, etc., sur plein de choses. Et ça, la plateforme, elle a besoin d'évoluer pour avoir ça, mais une fois que ce sera ça, il y aura tout un aspect vraiment, vraiment, vraiment complet. Et ça, en fait, c'est une communauté. Et cette partie de la communauté, en fait, il y aura toujours une communauté qui sera gratuite de soutien, et puis il y aura une communauté payante qui donnera accès à des contenus supplémentaires. Et c'est ça, le futur, en fait. De ça. Et est-ce que j'ai des doutes quand je fais ça? Oui, j'ai des doutes. Parce que le moment où je vous dis, je mets un peu de côté la partie marketing, business, apprendre aux autres personnes à faire du marketing, etc., ça représente un deuil de certaines activités, mais ça me permet, moi, d'arriver sur de nouvelles activités. J'avais dit, je pourrais être coach, je pourrais aller vers le coaching, etc., mais avoir des groupes de coaching, oui, ça peut être, fait partie des choses, par exemple, hein, j'ai proposé au club, hein, ça fait partie, j'en ai parlé un peu au présent, en disant, bah, pourquoi pas avoir un groupe, m'occuper d'une partie d'un bout de groupe, peut-être qu'il y a peut-être des gens que je peux aider à un moment donné, et passer mes diplômes d'entraîneur, oui, ça sera au fur et à mesure, ça va pas se faire dans cette année-là, ou peut-être ça se fera les premiers niveaux dans cette année-là, puis après les deuxièmes niveaux ensuite, etc. Ça aussi, ça en fait partie. Mais de faire des cours à domicile, etc., c'est pas ça. J'ai pas envie de faire ça, en fait. Je vous ai expliqué exactement quand je vais le faire. Est-ce que, oui ou non, J'ai des moments de doute, bien sûr, tous les jours j'ai des moments de doute, c'est l'entrepreneur, il a toujours des moments de doute, c'est toujours des choses qu'on n'a jamais fait. Ce que je viens de vous expliquer là, je ne l'ai jamais fait jusqu'à maintenant. C'est comme, par exemple, il y a la boutique Run and Create, sur lequel il y a des produits, il y a des casquettes, il y a plein de choses comme ça. Vous pouvez acheter des produits et ça m'aide aussi à soutenir. Alors si vous achetez une casquette, les 20 euros de la casquette avec les frais de port compris, moi ça va me rapporter 3 ou 4 euros. Mais si, bien sûr, il y a plusieurs personnes qui le font, ça finance des choses, mais surtout c'est que ça déploie la marque à droite à gauche, ça la montre à d'autres personnes, ça permet de faire des photos, ça permet de développer tout ça. Et en fait, ce soutien là il est surtout, c'est un soutien moral. C'est comme vous qui soutenez sur Patreon, c'est un soutien moral qui est extraordinaire. Quand j'ai un doute, je pense en fait à message que vous m'envoyez sur Patreon, au message que vous m'envoyez sur Instagram. Je pense à tous les partages que vous faites, au message sur Twitter. Je voudrais vous remercier tous les uns les autres de m'envoyer tous ces messages-là. Tous les jours sur Instagram, je reçois des messages de remerciement pour ce que je fais sur le podcast, pour dire que vous avez apprécié cet épisode, pour me remercier pour le travail, pour dire que vous, ça, je vous aide vraiment. C'est aussi le cas dans le Hamster Running Club. Il y a le cas partout, il y a plein d'endroits comme ça. Et vous savez ce que ça montre en fait ? C'est que j'y mets, en marketing, on parle de mission de vie. Et vous savez, je vous ai dit, moi, j'ai envie de devenir sportif pro à ma manière, champion du monde, de mon monde. Mais en fait, ma mission aussi, c'est de vous aider, vous aussi, à devenir champion du monde de votre monde. Je deviendrai champion du monde de mon monde quand je vous aiderai à devenir champion du monde de votre monde. Et ça passe par des outils, par des méthodes, par vous apprendre à le faire, par vous accompagner à le faire, par tout un tas de choses qui vont vous aider à le faire. Et quand on arrivera à devenir tous champions du monde de notre monde à notre manière, hein, vraiment tous comme ça, eh ben on sera bien. On sera bien, on sera mieux dans notre corps, mieux dans notre vie, mieux dans notre tête. Ça sera chacun à notre niveau. Pour certains, ce sera avec des gros défis, avec des besoins de financement. Pour d'autres, ce sera avec des plus petits défis. Pour d'autres, ce sera d'arriver à caser ça dans une vie de papa, de maman, de salarié, etc. Mais on sera bien, quoi. On sera bien. Et c'est ça, en fait. Voilà, je profite de ces foires aux questions. D'une part, pour vous remercier. Et puis, pour vous dresser, en fait, le futur. Vous voyez, le futur, c'est exactement ça. C'est ces offres comme ça qui vont s'empiler et vous avec des niveaux d'engagement que vous allez pouvoir faire varier. C'est vous qui allez choisir le niveau d'engagement. Pour certains, ça va être de dire bah oui, j'écoute des pubs. Pour d'autres, ça va être de dire bah je soutiens en donnant un petit peu 1 euro par épisode. Pour d'autres, ça va être de dire je vais rentrer dans le domaine, dans la communauté gratuitement et puis ensuite passer sur les offres payantes. Pour d'autres, ça va être d'acheter des formations, participer à des ateliers en ligne qui seront payants, d'autres vont être gratuits, d'autres vont être payants. Peut-être ça va être de faire aussi plus tard des petits rassemblements, des petits stages, des choses comme ça. Et puis, j'ai un dernier projet, mais celui-ci il est un petit peu tôt. Mais s'il se fait, c'est le projet, le gros projet de dans ma tête. Pour, et c'est pas un projet pro, c'est en fait une évolution du podcast pour l'année prochaine. Et celui-là, vous voyez, moi, je suis très mauvais en visualisation. Je fais de la visualisation, ce que j'appelle aveugle. C'est-à-dire que comme je suis incapable de convoquer des images dans ma tête, de visualiser n'importe quel objet ou que ce soit, je le ressens. Ça fait vibrer mes poils, etc. Je le ressens. C'est vraiment un ressenti. C'est un projet. Je peux pas vous en parler pour l'instant parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre. Mais lui, vraiment, ça sera mon fil rouge de l'an prochain. Et c'est un fil rouge qui amènera encore à notre niveau, au niveau de la communauté, au niveau de ce qu'on va faire ensemble, etc. Et que j'ai vraiment envie qu'il arrive à se réaliser. Parce que c'est un projet qui, pour moi, en fait, quand je regarde, en fait, il coche quasiment toutes les cases, à la fois pour faire grossir le podcast, à la fois pour arriver à avoir des invités qui sont très intéressants pour vous aider à progresser, à la fois pour construire cette communauté avec vous, pour vous rencontrer vous aussi. Mais il est un petit peu trop tôt pour en dire, ça fait un petit peu un teasing, mais on va dire que ça serait un peu l'objet de la saison 4, vous voyez. Saison 4 qui ne commencera pas maintenant, elle commencera après l'automne, au début de l'hiver, on va dire, grosso modo, ça sera un peu à ce moment-là. Ça sera un peu l'esprit de la saison 4. Le prix de la saison 4, ça sera un petit peu ça. Mais pour l'instant, je peux pas trop vous en dire. En attendant, Je vous remercie à tous pour vos questions. J'ai dit, j'avais presque une vingtaine de questions. Merci à tous pour votre question. N'hésitez pas, bien entendu, si vous avez des questions, vous me laissez un message, m'envoyez un petit message. @BertrandSoulier sur Twitter, sur Instagram, même sur TikTok, vous pourriez me trouver hein, en train de danser sur TikTok. J'ai une vidéo qui performe bien sur TikTok, donc il y a beaucoup de commentaires qui sont posés là-bas aussi. Vous pourriez me trouver aussi bien sûr sur YouTube, le Hamster Zoning Club, la communauté du Hamster Zoning Club. Je remercie bien sûr tous ceux qui participent au Hamster Zoning Club, qui viennent mettre leurs discussions, qui participent, qui échangent. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec probablement un épisode avec une invitée, un ou une invitée. Là aussi, hein, il va y avoir des petits changements sur le rythme avec, c'était une demande aussi, où il y aura plus d'épisodes solo, où je raconterai un petit peu le parcours, l'évolution des choses aussi. Ça fait partie aussi des réponses que j'aurais pu mettre dans la FAQ. En tout cas, je vous remercie tous pour l'écoute. Je vous remercie tous pour votre soutien. Je vous remercie pour ceux qui aident par leur financement, par ceux qui aident, par leur encouragement, par leur message. J'ai envie que l'année qui vienne, parce que là on est le 1er septembre, voilà, on est dans une période de nouvelle année au niveau du rythme. Hein, pour ma fille, c'est sa première rentrée scolaire. Ma vie de papa preneur, papa sportif change encore un petit peu, va encore changer, va encore évoluer. Mais j'ai envie que cette année-là soit vraiment construite selon ce que je viens de vous expliquer, selon ce que je viens de vous dire. J'étais très clair, très franc, très cash avec vous. Je vous fais pas de mystère. Je vous dis pas les futurs invités, tout simplement parce que ils sont pas calés, parce que on n'est pas sûr, parce que j'aime bien aussi un peu le part de mystère, etc. Mais ce que je peux vous dire, c'est que à la fois sur Kilomètre 42, sur sport et nutrition, je remercie Apiron avec qui c'est vraiment un projet qui est vraiment génial parce que ça me permet de rencontrer des nouvelles personnes. Ils ont des nouvelles idées d'invités aussi, d'une manière de faire les choses. Une autre approche aussi du sport, hein, de comment je peux parler de sport hein, par le biais de la nutrition et spécifiquement par la nutrition. Et ça me permet d'apprendre énormément de choses. Eh ben, on va construire une belle année pour progresser tous ensemble et devenir tous champions du monde de notre monde. Voilà, c'est tout ce que je nous souhaite. Je souhaite le meilleur à tous. Mon ambition, c'est qu'on soit tous champions du monde de notre monde, qu'on y arrive tous, qu'on se lance un défi et qu'on arrive à remplir nos défis. Et chacun nos défis, pour certains, ça sera de courir, pour certains, ça sera de courir plus, pour certains, ça sera de courir plus loin, pour d'autres, ça sera de courir plus vite, pour certains, ça sera de nager, pour d'autres, ça va être de nager, courir, pédaler, pour d'autres, ça va faire du ski, pour d'autres, ça va faire de tout ça. Et allez savoir, il y a peut-être encore plein de choses que je ne sais pas et qui vont pouvoir grossir. Kilomètre 42 n'est pas seulement un podcast sur la course à pied, c'est plutôt un podcast sur le mode de vie moins sédentaire et comment on arrive à s'échapper du confinement de la sédentarité. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci pour votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les sportifs. Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter un autre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu, au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcasts et tous les lecteurs de podcasts. Mais aussi, si vous le voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.